Ben oui, c'est nous autres sur l'émission En Jazz. Chaque jour de midi à 14h sur les ondes de Boulevard 102.1. Lundi au jeudi, aux alentours de midi, midi 5, c'est le caucus avec Antonine Iaccarini. C'est fâché contre Justin Trudeau hier, c'est très drôle. Le vendredi, c'est un excellent segment Lambert de Rainville, Farnell, Morisset, où on discute de sujets chauds de l'actualité. On va discuter entre autres aujourd'hui du positionnement de Paul Saint-Pierre Plamondon versus là, justement le fait que Mark Carney a fait des très bonnes actions, à mon avis, puis à ton avis aussi, Mathias. Hein?
Oui.
Avec son discours à Davos, les ententes présentement qu'il est en train d'obtenir avec d'autres partenaires.
Ben, je t'en parlais hier, Jeff, puis j'ai l'impression que depuis la nouvelle année, avant la nouvelle année, on avait un Mark Carney qui essayait de se positionner plus comme un politicien.
Ouais.
J'ai l'impression que depuis le retour des fêtes, depuis 2026, on a un Mark Carney qui a repris sa posture plus d'économiste.
Ouais,
on a le vrai Mark Carney
vraiment,
qui fait des discours beaucoup plus axés sur l'économie, qui se concentre beaucoup plus sur des relations, des ententes à l'international. Puis pour l'instant, ben j'ai pas le choix de dire que j'aime voir ça.
Exactement. Donc, on va parler de Paul Saint-Pierre Plamondon, à savoir comment il se positionne, lui, là-dedans. Il va-tu devenir pro-États-Unis, pro-Canada? Pro-Québec, comment il va nous expliquer ça? On va jaser de ça, notamment avec Farnell Morisset et Lambert Drainville. Et également, à ne pas manquer, midi 45, c'est Roger Ferland qui va être avec nous. Ryan Whiting, cet ancien Olympien canadien, le El Pablo canadien, qui a été arrêté aujourd'hui. Il aurait été arrêté au Mexique par le FBI. Donc, on va discuter de ça, l'historique de ce criminel, sûrement un des criminels les plus, je veux dire, connus, mais c'est pas nécessairement le terme que je cherche, là, le criminel les plus importants dans l'histoire du Canada.
Pour sur la liste des criminels les plus recherchés du FBI, d'ailleurs.
Ben, exactement. Pour nous joindre, 418-971-1021 pour donner votre opinion. Notre site web, blvd.fm, vous retrouvez les meilleurs moments de nos émissions en jazz, de toutes nos émissions dans la programmation. Et également, vous pouvez nous écouter via la web radio. L'application Boulevard 102.1, téléchargez-la sur App Store, Google Play Store. Je sais qu'il y a du monde qui font beaucoup de routes à l'heure actuelle parce que, bon, par exemple, moi, je suis père de gars de hockey, mais il y a des tournois à l'extérieur. Je sais qu'Éric Boulay, le DG de l'Aube-Rivière, est à l'extérieur en fin de semaine parce que son gars fait des compétitions de planche à neige. Il y a plein de gens qui circulent sur la route. Télécharger notre application. Twitch.tv, /BLVD, /FM pour venir nous voir et commenter également. Donc, on vous souhaite un excellent midi sur Twitch et merci d'être là. Et allez vous abonner à notre page YouTube parce que vous retrouvez plein de contenus exclusifs, des entrevues qu'on a fait en studio, des podcasts, notamment les podcasts des grands événements de Denis Gravel. Mathias, avant qu'on passe au segment Lambert Farnell, qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité pour le moment?
Je commence sur la route juste rapidement à vous dire que capitale direction ouest à hauteur de Laurentienne. Présentement, c'est un peu plus difficile. Laurentienne direction sud pour prendre capitale. Également, ralentissement à prévoir. On a parlé de Ryan Whiting, un ancien Olympien canadien qui a été arrêté pour narcotrafiquant aux États-Unis. Le FBI qui offrait une récompense de 15 millions pour toute information qui mènerait à son arrestation. On l'a finalement arrêté, on a trouvé ce fameux narcotrafiquant-là. Présentement, selon son acte d'accusation déposé, l'accusation principale qu'il pose sur lui, ce serait le meurtre d'un témoin fédéral dans une affaire de stupéfiants en 2024. On soupçonne également d'avoir orchestré d'autres meurtres, mais ça va rester à prouver. Donc, on va suivre la situation de près au cours des prochaines heures. Également, j'ai pas le choix de vous parler de la course à la chefferie du côté de la CAQ. Hier, des règles ont été annoncées, bien sûr, pour cette course à la chefferie-là qui se terminera le 12 avril prochain. On a appris ce matin que normalement, Christine Fréchette se lancerait officiellement dans cette course pour devenir chef de la CAQ ce dimanche. Elle a déjà obtenu plusieurs appuis, là. Catherine Champagne-Jourdain, Yann Lafrenière, Gilles Bélanger, Benoît Charrette ou encore Mathieu Lacombe. Ce sont tous des ministres caquistes qui se sont rangés derrière Christine Fréchette. De son côté, François Bonnardel a annoncé aujourd'hui qu'il ne se lancera pas dans la course à la direction de la coalition Avenir Québec. Les réponses de Bernard Drainville et Simon-Jeanin Barrette sont toujours à attendre. Également, Jean-François Simard qui dit toujours être en réflexion.
Merci beaucoup, Mathias. C'est très, très, très apprécié. On va faire quelques petits bulletins d'informations durant l'émission de cette façon parce qu'on a une émission très chargée avec beaucoup de bons intervenants et bonnes entrevues. On débute immédiatement le segment Farnell, Morissette, Lambert, Drainville du vendredi. Je pense à ça, les gars, va falloir vous faire un petit bed. Bête d'entrée.
Ah ouais, un jingle. On peut-tu avoir un jingle?
Ouais, on va faire ça. On va faire un jingle du vendredi. Qu'est-ce que t'en penses, Lambert Drainville?
Jeff, j'ai-tu besoin de te convaincre de mon amour des jingles?
Non, t'as pas besoin de me convaincre. C'est vrai, tu chantes encore la chanson Leadership Québec.
C'est mon réveil matin.
Non, mais attends, le Lambert, est-ce que tu veux la chanter, le jingle? Je pense que ça devrait être la belle voix de Lambert qui fait le jingle.
Ouais, je pourrais le chanter, puis écoute, dans la famille, on est bien fort là-dessus, nous autres, chanter des tunes, fait que... ouais, je suis pas drôle, là,
mais, rappelle-moi donc un événement avec ton père.
On pourrait faire un duo.
Ah, bah écoute, moi, si t'es down, je suis down. Je suis sérieux, là, tant que c'est pas quelque chose qui est trop exigeant sur les cordes vocales, là, s'il y a un petit chant, je suis partant.
Hey, moi, je serais partant qu'on fasse ça à deux sans blague. On laisse ça dans les airs, on envoie ça dans les airs.
On envoie ça dans les airs.
C'est envoyé dans le
l'univers. Je vais regarder avec notre producteur qui va être là lundi, Tommy Fontaine, puis on va checker qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est une excellente idée. D'ailleurs, allez-y par texto 418-971-101. Voulez-vous entendre un jingle chanté par Farnell et Lambert pour que je puisse convaincre mes patrons qu'on le fasse? Ça prend des réponses. Absolument. Les gars, je voudrais pas être dans les souliers de Paul Saint-Pierre Plamondon parce que c'est le congrès du PQ cette fin de semaine. Là, il est pris entre deux feux, entre une haine pour Donald Trump ici au Québec et au Canada, avec raison, avec ce que Donald Trump fait, et il est pris à ne pas prendre la défense du Canada parce qu'il veut se séparer du Canada. Comment Paul Saint-Pierre Plamondon va gérer tout ça? Farnell, je te lance la parole en premier.
C'est intéressant parce que j'ai l'impression que Paul Saint-Pierre Plamondon, présentement, il fait du pragmatisme classique. Mais il fait face à un monde où Mark Carney, cette semaine, a lancé ce qu'on pourrait appeler le nouveau pragmatisme économique de... Je veux dire, il a inventé un peu le terme « les puissances moyennes ».
Oui, en effet.
Nouveau terme dans le lexique politique mondial. Là, ça existait déjà dans les textes académiques. Mais alors, parce que le pragmatisme classique, c'est que oui, on va toujours être partenaire économique des États-Unis jusqu'à un certain point. Les États-Unis ne sont pas notre ennemi. On ne veut pas que les États-Unis soient notre ennemi. Je pense qu'on a tout intérêt à avoir des relations harmonieuses avec les États-Unis, même quand ils passent une chire un peu difficile. Mais est-ce que c'est être un bon ami et un bon allié de quelqu'un, avoir une dépendance économique quasiment complète sur cette personne-là? Je crois pas. Et sans nécessairement aller jusqu'à dire, bon, ben on va avoir une indépendance totale économique des États-Unis. Je pense que ça, c'est même le nouveau pragmatisme de Mark Carney n'irait pas jusque-là. Peut-être que dire, au lieu d'avoir, je sais pas, 85-90% de nos exportations qui vont aux États-Unis, est-ce qu'on pourrait en avoir 65? Puis avoir des canaux un peu plus ouverts ailleurs, comme ça, si jamais il y a des tensions, on n'est pas les mains complètement liées. Je trouve ça vraiment intéressant de voir Paul Saint-Pierre Plamondon essentiellement se coller à cette idée du pragmatisme classique que le Québec va toujours avoir une forte dépendance économique, on n'utilise peut-être pas le mot dépendance, mais une forte interrelation économique avec les États-Unis et qu'on ne peut jamais s'imaginer s'éloigner complètement de ça. Tandis que Mark Carney vient de proposer au monde au complet une nouvelle façon de faire où ça va être les puissances moyennes qui vont se lier, se tisser de liens économiques entre elles pour réduire leur dépendance sur les superpuissances. Il y a un rattrapage dans le discours à faire avec M. Plamondon présentement, je pense.
Lambert, t'en penses quoi, toi? Est-ce que justement mentionner du côté de Paul Saint-Pierre Plamondon qu'on va continuer à faire beaucoup d'échanges économiques avec les États-Unis, c'est venir se peinturer un peu dans le mur contre les patriotiques canadiens là, qui se servent justement de ce qui se passe aux États-Unis pour prôner le fédéralisme?
Non, je pense que j'ai tendance à abonder être dans le même sens que Farnell. Écoute, c'est une position qui est hyper délicate pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Bien honnêtement, dans le monde dans lequel on vit présentement, là, j'ai l'impression que chaque chef de parti ou chef d'État qui prend la parole, écoute, à chaque fois que j'écoute une prise de parole, que ce soit Mark Carney, que ce soit Paul Saint-Pierre Plamondon, que ce soit les autres présidents, premiers ministres des pays du G7 ou des autres pays, des puissances moyennes comme Farnell parlait, tout le monde marche comme sur un fil de fer présentement. Puis tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon, il faut se rappeler que là, dans les différentes... l'épluchage de son livre bleu qu'il fait depuis quelques mois, ben, il a mis beaucoup l'emphase aussi sur l'importance du Québec de diversifier ses relations, d'ouvrir des bureaux à l'international dans des pays où présentement ils n'en ont pas. Alors, ben effectivement, là, de l'entendre dire que, au fond, on est un peu pris avec, puis il n'y a pas grand-chose à faire, je trouve que c'est un petit peu, encore une fois, contradictoire dans l'optique où lui semble, du coup, donner une certaine valeur à ce que le Québec lui-même tisse des liens avec d'autres nations. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, à ce niveau-là, j'étais comme.
Non, en effet,
Je voyais une autre contradiction, voilà.
en effet, tu marques un bon point. Est-ce que Mark Carney lui a fait une belle passe sur la palette hier avec son discours à Québec en parlant des plaines d'Abraham comme un milieu de réconciliation, alors qu'on s'entend, c'est une guerre qui s'est passée, ces plaines, entre les
ouais.
Anglais et les Français? Je vois Lambert hocher de la tête en disant oui, vas-y avec ton propos.
Oui, c'est dommage, j'ai pas trop compris. Puis tu vois la différence, moi, écoute, comme tout le monde, j'ai trouvé son discours absolument. Brillant, bien honnêtement, je pense que
Celui de Davos,
ça...
si tu veux dire, là, pas celui des Plaines d'Abraham.
Non, c'est ça, celui de Davos, effectivement,
Ben oui.
qui a été salué aux quatre coins de la planète et j'abonde dans le même sens, encore une fois, mais tu voyais la différence entre les deux discours. D'ailleurs, le discours à Davos, clairement, et c'est de nature publique, c'est lui-même qui l'a écrit. Tu voyais que ça venait du cœur, tu voyais que c'est quelque chose à laquelle il réfléchissait non seulement depuis qu'il est premier ministre, mais probablement sur plusieurs et plusieurs années, remontant probablement même à quand il était dans le monde de la haute diplomatie. Et à l'inverse, quand tu écoutais son discours à Québec, tu voyais, d'abord c'est en français, donc nécessairement c'est pas lui qui l'a écrit, et tu voyais que c'était beaucoup moins naturel, tu voyais que ça venait pas nécessairement du cœur autant qu'à Davos, et j'ai pas trop compris pour le timing de cette prise de parole-là, alors qu'il surfait sur une vague de louanges lui venant de partout au monde. Là, il est comme venu briser un petit peu cet élan-là. Puis là, j'écoutais les différents médias, les différents chroniqueurs, commentateurs sur les différentes plateformes hier. Puis tout le monde était comme un peu malaisé là, de sa lecture de l'histoire, comme si, je veux dire, les Québécois ont, oui, moi j'ai toujours dit que les Québécois ont la mémoire courte, sélective, mais s'il y a bien un élément sur lequel ils n'ont pas la mémoire courte et on se ramène à nos plaques d'immatriculation, c'est bien la nature de notre histoire et les grands moments comme bon, les patriotes, Louis Riel, les crises linguistiques, la conscription, crise d'octobre, name it. À ce niveau-là, les Québécois savent très bien ce qui s'est passé durant ces moments marquants de notre histoire.
Ah oui, très, 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 très d'accord avec toi. Farnèse, c'est une erreur de Mark Carney hier?
Ouais, je pense que ce que Mark Carney a appris cette semaine, c'est que Mark Carney est bien meilleur quand c'est Mark Carney qui écrit les discours de Mark Carney.
En effet.
Je sais pas ce qui a écrit ce discours-là, mais c'était certainement pas Mark Carney. Dans le fond,
c'est quelqu'un qui a échoué son cours d'histoire de secondaire 4.
Ouais, ou quelqu'un qui a peut-être pas les bonnes sensibilités là-dessus. Ou tu sais, il y aurait façon de dire que bon, reconnaître que c'est pas un lieu où il y a de grandes paix, mais qu'il y a une paix qui s'est établie après, par exemple. Ça peut être un angle différent. Là, je ne vais pas commencer à écrire les discours de Mark Carney à sa place. Mais je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Mark Carney, quand il est lui-même, quand c'est un grand penseur économique, géopolitique, mondial, il est à son meilleur.
Exactement ce que Mathias nous disait tout à l'heure.
C'est ça. Quand il essaie d'être un politicien qui fait des beaux discours qui servent à flatter les gens dans le sens du poil, il est pas mal moins fort. Puis, écoute, moi aussi, j'ai écouté ça, puis j'étais comme, bon, c'est un peu absurde ce qu'il a dit, là, c'était pas sa meilleure. Espérons que c'est pas ça qui va passer à l'histoire. C'est pas mal bien plus, sûr. Je pense, le discours à Davos.
Je nous envoie tranquillement en transition vers la course à la chefferie de la CAQ, parce que je réfléchis à ça cette semaine, puis on parle beaucoup de cette fameuse troisième voie au Québec, de se détacher du « je suis fédéraliste, donc libéral, Parti libéral du Québec, je suis séparatiste, Parti québécois ». Puis est-ce que cette semaine, justement, ça nous démontre à quel point cette troisième voie-là est importante? Et je m'explique. On est présentement dans une guerre tarifaire avec les États-Unis, puis être unis dans le Canada, ça peut nous aider. On l'a vu avec la grandeur d'âme de Mark Carney cette semaine avec son discours. Donc, ça laisse un peu de côté, pour un électeur comme moi, le PQ. Mais d'un autre côté, on n'a pas le goût de se ranger à 100% avec les fédéralistes, parce qu'il nous arrive des discours à la Mark Carney où là, ça fait ressortir notre nationalisme, puis on dit « Hey, wow, minute, là, on n'a pas fait la... » C'était pas un moment de paix, ça, là, c'était un moment de guerre. C'est-tu là que la CAQ vient vraiment bien se positionner? Lambert, tu as travaillé à la CAQ. Qu'est-ce que tu en penses de ma pensée versus ça.
Ben moi, j'aimerais ça, tu sais, quand même ramener le fait que c'était vraiment super son discours, mais par rapport à Mark Carney, je reviens toujours à ça, tu sais. Quels seront les gestes concrets? T'sais, quels seront les gestes concrets qui vont aller dans le sens de se tenir debout, de ce nouvel ordre mondial dont tu as parlé à Davos, et what's in it for us au Québec? Et la vérité, c'est que quand tu regardes au fil de l'histoire, le Canada, quand il a été pris dans des enjeux où les intérêts des Québécois étaient divergents des intérêts du reste du Canada ou des intérêts d'une autre province au sein de la Fédération, bien, force est d'admettre qu'on a souvent été mis de côté. Fait que moi, les belles paroles, je trouve ça super. Je trouve que c'est un super discours, mais j'ai hâte de voir s'il y a bien une chose depuis la campagne électorale fédérale l'hiver dernier que Mark Carney nous a montré, c'est qu'il ne semblait pas bien saisir là, la distinction québécoise. Je pense que pour l'instant, cette faille-là qui est une de ses plus grosses failles, ben, honnêtement, ouais. Parce qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose depuis qu'il est en poste. Ce n'est pas les conditions difficiles non plus dans lesquelles il doit naviguer. Mais c'est sûr que j'ai dans l'esprit les négociations pour un éventuel accord de libre-échange à renouveler. Et je le regarde aller puis je me dis, est-ce que c'est le gars qui va mettre son poing sur la table pour défendre la gestion de l'offre, l'aluminium, quand vraiment ça va être le crunch time? Et si l'histoire est garante du futur... on peut certainement en douter. Alors, j'ai hâte de voir. Puis, en ce sens-là, moi, je trouve que ça va un petit peu dans le sens aussi, tu me poses la question sur la CAQ, mais la CAQ, c'est un parti qui s'est bâti autour d'un discours identitaire et national fort au sein du Canada. Mais moi, j'ai tendance à avoir quand même une opinion assez mitigée sur les gains concrets que ça l'a donné. Tu sais, si je peux faire le lien avec ce que je viens de dire sur Mark Carney, au fil de l'histoire, quand il y a eu les intérêts divergents dont je parlais entre le Québec et le reste du Canada, les gains sont souvent nuls, dans certains moments très minces. Et quand tu regardes le bilan de la CAQ en termes de, ben, pendant tout le premier mandat, ils ont matraqué, il faut plus d'argent dans le transfert en santé, il faut plus de pouvoir en immigration, il faut un paquet d'affaires pour améliorer l'autonomie du Québec. Et disons que les résultats à ce niveau-là sont, encore une fois,
ouais, sont mitigés. Oui, en effet. Farnell, est-ce que tu penses que je suis le seul à me sentir comme ça, à me sentir appelé par cette troisième voie-là cette semaine?
Ben, je pense que je ferais du village en premier sur l'idée que l'histoire est garante du futur. Je crois que si on regarde l'histoire beaucoup plus récente avec l'entente qui vient de se faire avec la Chine, on a quand même eu quelque chose de spécial qui s'est passé où l'entente entre le Canada et la Chine va ouvrir le Canada à des véhicules électriques chinois en échange d'une ouverture en Chine de canola et de porc. Le porc, c'est une énorme industrie au Québec. Et puis, c'est qui a été un peu le perdant cette fois-ci? Ça a été l'Ontario. Alors, si on regarde l'échange, l'entente la plus commune, le Québec en sort gagnant au détriment de l'Ontario présentement. Je pense que c'est peut-être pas en soi signe de ce qui s'en vient, mais c'est peut-être signe que, je dirais plutôt que la troisième voie a fait son travail. Si on regarde l'état politique, surtout québécois, avant cette espèce d'idée de la troisième voie-là, t'avais... le souverainisme séparatiste pur et dur. On s'en va, puis après ça, on va se gérer nous-mêmes. Puis t'avais le fédéralisme où, je veux dire, le Parti libéral du Québec brandissait encore le drapeau canadien puis son passeport comme si c'était une grande fierté. Aujourd'hui, c'est plus ça la réalité. Tu penses tant d'un parti que de l'autre. On a un parti québécois qui dit « Oui, on veut faire la souveraineté, mais on va immédiatement négocier avec le Canada pour avoir des ententes. On va avoir des ententes de partenariat. On va partager la monnaie pendant au moins 10 ans. » Alors, on parle d'un souverainisme pour quand même revenir vers un rapprochement renégocié avec le Canada. Puis du côté du Parti libéral du Québec, présentement, ben, on parle quand même de mettre le Québec en premier. On parle ouvertement de la nation québécoise. On parle aussi de vouloir continuer à renégocier, toujours renégocier l'entente avec le Canada. À quel point est-ce que ça va se faire là? Je veux dire, on ne le sait pas. Là. On sait que la CAQ a parlé de le faire pendant très longtemps, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un effort particulièrement concerté, peut-être pas concerté avec les autres provinces non plus. Mais l'idée maintenant de cette troisième voie-là, qu'on soit souverainiste ou fédéraliste, on veut revoir l'entente avec le Canada. On ne s'en va pas complètement, mais ce n'est pas le statu quo non plus. Ça, je pense que c'est le résultat du travail de les 10-15 dernières années de cette troisième voie-là qui est rentrée dans le discours politique général. Alors, je ne suis pas prêt à dire que c'est nécessairement... Tu n'es pas le seul à te sentir attiré par ça. Clairement, les souverainistes et les fédéralistes se sentent attirés par ça aussi.
Ouais. Merci beaucoup, Farnell, de me réconforter dans mes... Vous écoutez l'émission Dans Jazz, c'est le segment Farnell, Morissette, Lambert, Drainville. C'est à chaque vendredi, environ de midi à 12h30. Farnell, t'es quelqu'un que j'admire, t'as toujours une pensée très logique. T'aurais pu te présenter à la chefferie de la CAQ, selon moi. Puis avec les followers que t'as sur TikTok, t'aurais pu vendre des cartes de militants puis être élu premier ministre du Québec.
Ben écoute, c'est clairement de ma faute si la CAQ a choisi ses règles actuelles.
Exactement. C'est-tu à cause de toi ou d'Olivier Primo qu'on a demandé 15 députés?
C'est drôle à dire parce que initialement, quand j'ai vu cette règle-là, je me suis dit, ah, c'est un peu dommage. Justement, on parle dans les règles de la course à chefferie, il va falloir avoir un minimum de 15 députés actuels de la CAQ, ouais, qui appuient la candidature. J'ai vu ça comme, ah, ben c'est un move anti-outsider, c'est un move anti-renouvellement. Et c'est le genre de choses qui m'aurait peut-être déçu d'un parti politique dans n'importe quelle situation autre que celle de la CAQ actuellement, puis je m'explique.
Eh oui, vas-y, ça m'intéresse.
C'est que la CAQ, présentement, est dans une situation très spéciale où le prochain chef de la CAQ devrait normalement devenir premier ministre. Est-ce qu'il va rester premier ministre très longtemps? Ça va être à cette personne-là à décider. Ce qui veut dire que je pense que la CAQ a vu la possibilité, ou au moins le risque. Puis là, imaginons le pire scénario imaginable. On ne parle pas d'un Olivier Primo, là. Imaginons un radical. T'sais, le chef d'Atalante, par exemple, qui lui, il est peut-être capable d'aller chercher 1000 signatures dans 75 circonscriptions différentes du Québec de ses membres dans ses groupes Facebook puis les espèces de recoins de l'Internet un petit peu trash. Et forcer une discussion à savoir est-ce qu'on exclut cette personne-là ou pas sans avoir une règle claire pour le faire, c'est ce genre de choses. C'est une distraction que la CAQ ne veut pas, mais aussi je pense que c'est une distraction que le Québec en général n'a pas besoin d'avoir. Alors, même si c'est une mesure qui, oui, va en effet bloquer un espèce de renouveau profond du leadership de la CAQ, je crois que vu la possibilité que cette personne-là devienne premier ministre, et ça ne prend pas énormément de votes, je veux dire, ça va être des votes des membres de la CAQ, on parle de ce que j'en comprends, tout au plus 15 000 personnes, on ne peut pas se mettre dans une situation où quelqu'un hijack le parti sans savoir ce qu'il va en faire, sans savoir où est-ce qu'il va avec ça, et devienne aussi automatiquement premier ministre. C'est vraiment ça la nuance. Puis je pense que malgré que oui, ça va bloquer un renouveau, je crois que dans l'ensemble, dans les circonstances très spécifiques actuelles, c'était peut-être le move responsable à faire.
J'adore ton point de protéger la fonction de premier ministre, qui est une fonction tellement importante.
Assurer une certaine continuité, oui, aussi, vu que cette personne-là rentre sans mandat populaire.
En plein ça, ouais. En même temps, je me disais justement la même chose. Je me disais, c'est vrai que ça prend quelqu'un qui est dans machine présentement pour assurer cette transition-là jusqu'à l'élection du mois d'octobre. Parce que dans les faits, il va devenir premier ministre le 12 avril, mais on est en campagne électorale cet été.
Ouais.
Fait qu'il va être premier ministre pour deux mois. Là.
Oui, mais c'est, encore une fois, imaginons, le pire scénario imaginable, un hijack par un radical qui arrive, il dit « c'est moi le premier ministre, j'ai le pouvoir, s'il est capable de se rallier assez du caucus qui veulent absolument garder leur siège », il dit « ben on n'aura pas d'élection, j'ai le droit techniquement selon la Constitution de pousser s'il faut ». Puis là, ben là, il y a le champ libre, un gouvernement théoriquement majoritaire. T'sais, on est dans les fantabulations, là, je pense pas que ça arriverait, puis je pense qu'il y aurait plein d'autres, il y aurait des débats juridiques interminables.
Ben oui, ben oui.
Mais pourquoi s'ouvrir à cette possibilité-là quand tu peux faire le move raisonnable et dire « dans notre situation ouais. » actuelle, donnons-nous une protection additionnelle.
Lambert, es-tu d'accord avec Farnell?
Oui, puis tu sais, oui, c'est certainement, comme Farnell l'a dit, ça permet de mettre des balises sur un candidat vraiment venu du champ gauche ou du champ droit, si tu me permets l'expression. Un Olivier Primo également, c'est sûr, mais en même temps, tu sais, je pense à par exemple, est-ce que ça empêche complètement les candidatures venues de l'externe? Non, tu sais, si on se met dans la peau d'un Guy Cormier là, qui a fermé la porte, mais si jamais il avait voulu y aller, que Guy Cormier aurait été en mesure de rallier l'appui d'au moins 15 députés, sachant que selon les règles, un député peut signer plus d'un bulletin de candidature. Est-ce qu'il y a des caquistes qui auraient jugé que Guy Cormier, vu son parcours, a une réputation assez crédible pour possiblement reprendre les rênes de ce parti-là? Possible. Fait que ça ne ferme pas la porte complètement à une candidature venue de l'externe, mais c'est sûr que ça diminue grandement les chances. Et j'abonde dans le même sens que vous quand Farnell parle d'une certaine continuité. Je pense que c'est sûr que pour un... Disons qu'en matière d'instabilité de l'État, j'ai donné l'exemple de Guy Cormier, ben c'est quand même un gars qui n'a pas l'expérience politique, c'est quand même un gars qui n'a jamais gouverné, qui n'a jamais été au gouvernement. c'est tout un défi. Mais on l'a vu avec Mark Carney, tu sais, ça se peut
Ouais.
des. C'est très, très, très rare. Puis on en a déjà parlé, Jeff, l'exemple de Mark Carney. Moi, je ne suis pas trop friand de ça, là. Je trouve que c'est une espèce d'épisode de l'histoire politique canadienne qui est plus une donnée aberrante qu'autre chose, mais n'en demeure pas moins que c'est un gars qui est arrivé sans expérience politique et qui, mine de rien, depuis, fait un travail plus que louable.
Vraiment. Lambert, je termine la chronique avec toi. Christine Fréchette se lance officiellement à Trois-Rivières dimanche. As-tu des informations concernant Simon Jolin Barrette, Bernard Drainville ou d'autres candidats qui se lanceraient prochainement également?
Ben, c'est sorti publiquement. Je pense que Bernard Drainville, ça devrait être dans les prochains jours. C'était sur le site de Radio-Canada. Christine Fréchette, oui, effectivement, ce sera à Trois-Rivières dimanche. Elle, c'est sûr que elle cherche à tout prix à se distancer le plus possible de l'image qu'on lui accole déjà d'une fille
De
de
Montréal.
Montréal qui a été à la Chambre de commerce, présidente de la Chambre de commerce de l'Est de l'île de Montréal, dans le comté, dans la grande région de Montréal. Fait que c'est logique pour elle de vouloir commencer tout ça en région, à Trois-Rivières. Et mine de rien, tu sais, il y a plusieurs appuis notables qui sont encore dans l'air, plusieurs ministres qui ne se sont pas encore positionnés et plusieurs ministres majeurs, l'un étant Jean Boulet, qui est le député de Trois-Rivières, qui est très chauvin, très fier de
Oui,
son petit coin.
il a dit tout à l'heure, cependant, à l'émission de Mario Dumont, qu'il ne donnait pas son appui pour le moment à Christine Fréchette, qu'il voulait encore réfléchir.
Exact. Mais on peut quand même se penser que si Mme Fréchette peut mettre les chances de son côté, autant dans l'optique de s'éloigner de ce spin-là qu'elle vient uniquement de Montréal, qu'elle parle uniquement pour Montréal, et en même temps, ben, possiblement se mettre dans les bonnes grâces de Jean Boulet, ben, je pense que c'est tout à son avantage. Mais Simon Jolin Barrette, ce que j'entends, c'est étrange. J'ai l'impression que Simon Jolin Barrette, il y a quand même une partie de lui qui. Il y a une partie de sa réflexion qui est alimentée beaucoup par les élus qui ont pris son bord et qui l'appuient dans cette course à la chefferie-là. Je ne sais pas si Simon Jolin Barrette serait aussi. Disons, si l'aiguille pencherait autant du côté de se lancer si ce n'était d'autant de pression de ses amis et collègues du caucus.
Ouais, ça a l'air attenté à plus ses partenaires du caucus que lui-même.
Ben, je ne sais pas dans quelle proportion, mais chose est certaine, je sais que lui, bon, il y a des. Y a des on a, c'est sorti publiquement là, que tu sais, il y a des jeunes enfants, il y a une situation familiale qui n'est peut-être pas idéale présentement, que c'est quelque chose qui pèse dans sa réflexion, mais que justement, comme je le soulève et comme tu viens de le dire, le fait d'avoir plusieurs personnes qui sortent fortement pour lui rapidement. Je trouve ça, c'est sûr que ça lui met de la pression personnellement. Et maintenant, on va suivre la suite des choses. Faut faire attention aussi avec ça, là, les appuis. Moi, on dirait que j'ai un grand respect pour les élus, puis les députés, puis les différents membres du parti qui sont patients, là, parce que je
Oui.
trouve que ça va vite. T'sais, M. Legault, écoute, une semaine, était encore premier ministre, était encore premier ministre, mais n'avait pas encore annoncé qu'il quittait. Et c'est une grosse décision. Il n'y a personne qui a fait de proposition encore. On ne sait pas qui va proposer quoi sur les régions, sur tout l'enjeu du PEC. T'sais, on en a tellement parlé, le troisième
T'as
lien. T'sais,
raison.
un paquet de gros enjeux sur lesquels les différents candidats vont se distinguer. Je trouve qu'il y en a plusieurs, même des gros joueurs au gouvernement, t'sais, qui me surprennent à sortir aussi rapidement avant d'avoir entendu quiconque faire une seule proposition, là.
Non, en effet, t'as entièrement raison. Farnell Morissette, Lambert Drainville, c'est notre segment du vendredi à compter de midi. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation encore une fois.
Toujours un plaisir, toujours un plaisir de parler avec Lambert.
Yes, je vous souhaite un excellent week-end et on se reparle la semaine prochaine. Salut les
Merci.
boys. Salut. Après la pause, deux choses pour vous. Irénée Rutéma, notre chroniqueur en politique municipale, qui va venir nous voir, va nous parler d'un Bruno Marchand qui voit au septième ciel et également de Stéphane Lachance qui fait de plus en plus un bon rôle de chef de l'opposition. Et on va parler avec Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, de cette arrestation historique de Ryan Whiting, sûrement le criminel le plus important jamais vu dans l'histoire canadienne. Donc, restez avec nous, vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
On en jase jusqu'à 14h.
Vous êtes sur les ondes de Boulevard 101 à l'émission On en jase, midi 37 exactement. Météo, préparez-vous, c'est le vortex polaire qui vient nous frapper. Moins 23 degrés cette nuit, mais avec le refroidissement éolien, là, on parle d'un moins 36 au cours de la nuit. Risque dangereux. Demain, moins 18 ensoleillé, mais dans la nuit, c'est moins 27. Fait qu'on va peut-être frapper le moins 40 avec le refroidissement éolien. Et dimanche, c'est moins 17, neige intermittente. Donc, il va faire froid ce week-end. Habillez-vous chaudement quand vous allez à l'extérieur. Puis, vous pouvez aussi privilégier le divan puis la doudou pour une série Netflix.
C'est ça que j'allais dire. Surtout durant la nuit, vous pouvez tout simplement dormir et pas sortir dehors.
Oui,
pense que ça va être mieux pour vous. Juste rapidement sur les routes, parce qu'il y a déjà... On est vendredi, fait que le trafic commence plus tôt. Il y a quelques ralentissements qui commencent à se créer. Notamment sur Laurentienne, en direction sud, pour arriver sur Capitale, ralentissement dans le secteur. Capitale, direction ouest, justement, à hauteur de Laurentienne. Et un petit nouveau s'est rajouté maintenant, c'est Capitale direction Est, cette fois-ci à hauteur de Robert-Bourassa, ralentissement. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Et 418-971-1021, vous pouvez toujours interagir avec nous. Merci à Bruno qui m'écrit « Hey, salut Jeff, dis pas que Ryan Wedding, c'est le plus gros joueur que l'on ait connu dans le crime, c'est faux. C'est lui qui a été le plus médiatisé par son ancienne notoriété sportive. » Sais-tu quoi, Bruno, t'as bien raison, merci beaucoup. J'adore quand vous m'écrivez les auditeurs pour m'en remettre à l'ordre. Il faut mal le remettre à l'ordre, le petit Fortin, un peu.
Oui, oui. pas trop souvent, mais ça reste dans des plus gros criminels de l'histoire moderne, du moins.
Exactement. On va immédiatement rejoindre, il est avec nous en studio, notre chroniqueur municipal, Irénée Rutema. Irénée, comment vas-tu?
Ça va bien, content de vous revoir.
Ben oui.
Et moi, je vais sortir ce soir, par exemple.
Tu vas sortir ce soir?
Chez moi.
Tu restes pas chez toi, mais non.
J'ai une rencontre avec des amis dans le Vieux-Québec. Mais la question, est-ce que je marche pour y aller, prends un taxi ou je prends l'autobus? Donc, c'est ça la question qui me préoccupe
exactement
aujourd'hui.
Moi, je vais être dans un aréna froide à coacher au hockey. Fait que je vais avoir froid anyway.
Oui,
mais ça va être le bonheur quand même.
Anecdote, en commençant, j'étais au conseil municipal mardi dernier. Donc, je suis allé dans la mezzanine réservée aux journalistes et il faisait fret.
Il faisait frais, d'habitude il fait chaud en plus.
Oui, mais
comme ça.
Quand j'ai quitté, le chauffage a commencé.
Exactement. En passant, merci beaucoup. Puis je le dis aux auditeurs, Irénée nous a dit hors d'onde tout à l'heure, Mathias, il s'est à coche, il n'a pas lâché le mal marchant. Puis on le sait, c'est pour ça qu'on l'a embauché à temps plein.
Ah non, il était bon.
Il
était bon et je peux dire que Marchand ne s'attendait pas à sa question. Mm-hmm. Parce que là, quand tu entends Marchand en train de dire « Hey, attends un peu, là. Écoutez bien, là. »
<C'est ça. rire> J'avais dit... Il y a des explications,
Mathias était très, très, très bon, là.
C'est magique. Hey, Bruno Marchand est au 7e ciel.
Oui.
C'est ce que tu veux me parler. Comment ça, tu le trouves au 7e ciel, notre mère?
En tout cas, on était là avec Mathias, là, au point de presse, là. Mais là, il a commencé en disant « Les clignotants sont ouverts, la ville va bien. » Alors, il a parlé que le taux de chômage est à 3,5%. Il y a les retombées économiques du tourisme, elles sont à 2,7 milliards de dollars. Et il était très, très, très content. Et j'ajouterais aussi qu'il a une très bonne semaine.
Ouais.
Juste son invitation hier à prononcer un discours devant les ministres de M. Carnet qui se réunissent à Québec. Et j'ai appris qu'il a passé 1h15 avec eux. Donc, il a fait un discours.
Oh, c'est énormément de temps accordé à un maire de Québec. Là.
Oui, et connaissant l'agenda du premier ministre.
Ben oui.
Donc, c'était impressionnant. J'ai l'impression, là, j'arrête de le dire, là. C'est la dernière fois que je dis le mot magnétisé.
Je commence 2026 comme tu as fini 2025.
Donc là, il les aurait magnétisés. Et semble-t-il que les équipes aussi des deux cabinets respectifs, là, se parle. Donc, il a commencé bien l'année sur ce point-là.
Puis, je trouve intéressant que tu le mentionnes parce qu'avoir le cabinet du premier ministre canadien qui vient ici avant la rentrée parlementaire, avoir une annonce sur le logement, 1 milliard en infrastructure, Maison Canada, province de Québec qui collabore cette semaine ici à Québec. Ouais. Je pense que ça démontre gros sur l'influence grandissante que Bruno Marchand a présentement.
C'est un excellent point.
Exactement. Et cette semaine, En tout cas, moi, pour avoir des informations, je sors souvent sous grande allée. Alors, j'ai parlé avec quelqu'un qui a, je ne dirai pas son nom, là, qui suit la politique attentivement, très, très plugué, là, même au gouvernement caquiste. Là, il me disait, écoute, j'observe M. Marchand et je pense qu'il veut être premier ministre du Québec.
Bien, c'est drôle que tu dises ça parce que c'était ma prochaine question. Est-ce que Bruno Marchand se la joue, puis là, je vais prendre cette expression-là, se la joue trop big, puis oublie les préoccupations du citoyen qui est le déneigement, les poids et la bourre, l'entretien des parcs? Est-ce qu'il est en train d'oublier ça par ses missions ou ses mandats qu'il se donne qui sont plus de l'ordre provincial fédéral?
Mais... Donc, hier, quand on a vu la... en consultant le journal de Québec, là, quand il a critiqué M. Trump, donc il a félicité M. Carney pour son discours à Davos.
Ben, il y a beaucoup de citoyens à ce moment-là qui disent « Voyons, on s'occupe de mon déneigement! »
Oui, notre ville est très importante pour les États-Unis. Parfois, on l'oublie. Mais les États-Unis ont une représentation diplomatique à Québec. Donc, il y a une consul générale à côté du château Frontenac. Donc, ça veut dire que nous sommes très importants. Et l'autre seul pays qui a un consulat général, c'est la France, avec les liens historiques.
Ah, je ne savais pas
ça. Donc, ça fait juste deux. Après ça, mais si on regarde, la Chambre de commerce dit qu'il y a environ plus de 850 entreprises de la grande région de Québec qui exportent
aux États-Unis.
Et aussi, je pense qu'avec le succès du tourisme, il y a environ 13 % des gens qui visitent la ville de Québec qui viennent des États-Unis. Alors, moi, je pense qu'il peut la jouer à l'international sans oublier qu'il y a des défis et le déneigement. Et moi, ça fait plus de 32 ans que je vis ici, le déneigement à Québec, c'était un problème existentiel et éternel, je pense.
Oh, ça va être éternel, t'as entièrement raison.
Par contre, il faut que je souligne, puis je pense que, parce que je veux pas, je pense que tu vas fâcher quelques auditeurs en disant c'est un problème de toujours. Nous autres, les réactions par texto quand on a des auditeurs, c'est que cette année... En particulier, c'est quelque chose.
Oui, 652 plaintes. Mathias me partageait tantôt, hors d'onde, quand on préparait l'émission, il disait « Hey, Jeff, il dit, Stéphane Lachance a vraiment fait un bon point de presse. » On l'a reçu en entrevue aussi dans Marceau le matin. Je l'ai trouvé posé, je l'ai trouvé documenté. J'ai découvert Stéphane Lachance différent. C'est une bonne semaine pour Stéphane Lachance. Puis il frappe ses bons leviers aussi avec le déneigement, les poils à boule.
Oui, je pense qu'il commence à porter le costume de chef de l'opposition. Il était très à l'aise dans son point de presse. Et il y a quelque chose que j'aime chez eux, c'est qu'ils sont trois et ils se partagent le micro.
Ah, vois-tu, Mathias, c'est même moins ça parce qu'ils trouvent Mélanie Sauvé et Marc Roussin moins bons que Stéphane Lachance.
Je vais te poser cette question-là, justement. Au contraire, est-ce que tu trouves que Marc Roussin puis Mélanie Sauvé, en prenant autant de place, tirent un peu le parti vers le bas, au contraire?
Mais je trouve que dans le parti, j'ai l'impression que le geek du parti, c'est Marc Roussin.
Oui.
Et il connaît tout, il va dans les coins. Et moi, je trouve que c'est intéressant.
Okay.
Ça veut dire que ça montre que c'est un travail d'équipe. Mais ce que tu dis, c'est que M. Lachance est très, très éloquent. Et dans la dernière campagne municipale, même Claude Villeneuve avait dit que c'est le meilleur speaker, là, lui qui est le plus éloquent dans la campagne municipale. Moi, je trouve que c'est bien. Oui.
Ben c'est sûr que c'est une dynamique très intéressante parce qu'on voyait pas ça. On en parlait tout à l'heure. Claude Villeneuve faisait un point de presse, c'était Claude Villeneuve tout seul. Ouais. C'est rare qu'on voit ça, un parti d'opposition avec toutes les... Ben là, c'est sûr, son trois, ça facilite la chose. Mais avec tout le monde du parti qui prend part au point de presse, c'est une dynamique intéressante, c'est sûr.
Même pendant la campagne électorale, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, quand on allait dans un point de presse, les candidats qui étaient responsables du dossier, ils prenaient la parole. Et M. Lachance aussi, il disait « Ah, cette question, c'est tel candidat qui la maîtrise mieux. » Donc, je trouve ça intéressant. Et en revenant donc sur M. Lachance, mais il a marqué les points par ses dossiers. Donc, il a critiqué le déneigement, comme d'habitude. Il faut déneiger les rues avant les trottoirs, avant les pistes cyclables. Donc ça, c'est la ligne.
Oh, il frappe sur les bons leviers. Non, mais il y a 4 ans pour installer une belle crédibilité à son parti politique, et je trouve que ça commence bien. Oui. Et tant mieux, parce qu'on va toujours avoir besoin d'opposition.
Non, ça prend une opposition. Et aussi, ce week-end, ils ont déjà un congrès.
C'est vrai, ils se parlent de ça jeudi, non?
Oui, c'est ça samedi. Mais là, il paraît qu'il y a un invité... connu qui va prendre la parole. Oh. Là, j'essaie d'avoir les informations aujourd'hui. J'ai
testé.
Peut-être en après-midi.
Peut-être en après-midi.
S'il ne fait pas trop froid, mais je pense que je vais aller faire un petit tour.
Si t'es là, fais-moi signe. On devancera peut-être ta chronique de la semaine prochaine à lundi pour que tu nous parles de ce rassemblement-là.
Oui, on pourrait le faire. Fait que je vais te faire, faire signe. Mais il y a un point que j'ai trouvé. Je ne sais pas comment toi, Mathias, tu as trouvé ça. C'est qu'ils ont dit que la construction de la patinoire Bon Pasteur, au départ, c'était 5 millions.
Oui.
Par la suite, les coûts sont rendus à 9,5 millions. Mais le maire a dit que la ville ne va pas perdre un sou parce que le provincial va payer 5 millions de dollars.
Oui, bien ça, c'est un dossier particulier parce qu'on avait eu l'information, puis c'était des représentants de la ville qui avaient dit 5 millions. Mm-hmm. Puis du côté d'opposition, ils l'ont très bien fait. Mm-hmm. T'avais prendre le dossier puis dire maintenant ça coûte 9 millions. Il y avait eu un article dans Le Soleil d'ailleurs. C'est un problème du côté de la Ville de Québec. Par contre, je tiens à le préciser, c'était plus une erreur de communication que réellement un dépassement de coûts. Okay. Parce qu'on m'a envoyé les documents du côté de la Ville de Québec, puis le projet est chiffré à 9 millions depuis 2023. Donc, on n'a pas vraiment de dépassement de coûts. Mm-hmm. Par contre, l'opposition a bien fait son travail. Oui. Puis, il faut souligner qu'il y a eu une erreur de communication de la Ville de Québec en 2023 par rapport au coût réel de la patinoire.
Ah, OK. Donc, je comprends parce que les explications de M. Marchand étaient très, très claires. Donc, il trouvait que l'opposition jouait avec les données. Alors, donc, l'opposition n'avait pas les données exactes.
Exact. Pas sur le moment, du moins, selon les informations que j'ai présentement.
Ah, OK, parfait.
Donc, René Rutema, je te remercie infiniment de ta présence en studio avec nous.
C'est déjà terminé?
C'est déjà terminé. On se reparle la semaine prochaine.
Je pensais qu'on allait être jusqu'à 14h.
Non, pas jusqu'à 14h. On a plein d'autres invités intéressants, dont le prochain qui s'en vient, Roger Ferland.
Le midi, on en jase.
Mathias, est-ce que tu peux nous rappeler la nouvelle, cette arrestation de Ryan Wedding? Qui est cet homme?
Oui, c'est un narcotrafiquant canadien, en fait, qui était sur la liste des personnes les plus recherchées, des criminels les plus recherchés par le FBI. On disait souvent que c'était le Pablo Escobar du Canada.
Ouais, là,
c'est un grand criminel. Là. Le FBI offrait une récompense de 15 millions de dollars pour toute information qui mènerait à son arrestation. Finalement, il a été arrêté. Il y a présentement un acte d'accusation qui a été déposé contre lui. Le plus gros point sur cet acte d'accusation-là, c'est qu'il est notamment accusé d'avoir orchestré le meurtre d'un témoin fédéral dans une affaire de stupéfiants en 2024. Il y a d'autres suspections. Il est soupçonné d'avoir ordonné le meurtre de plusieurs autres personnes. Pour l'instant, il n'y a pas nécessairement d'accusation sur ça. Mais c'est un dossier qu'on suit de près depuis quelques mois parce que c'est un grand criminel, un criminel canadien, un ancien Olympien canadien qui est recherché autant par le FBI. C'est sûr, ça fait jaser.
Et pour en parler avec nous, on a l'ex-enquêteur au SPVQ, Service de police de la Ville de Québec, et enseignant en technique policière au Cégep Garneau, Roger Ferland, au bout du fil. Roger, comment vas-tu, mon ami?
Très bien, bonjour à vous.
Roger, merci beaucoup de te rendre disponible pour nous. Est-ce que c'est une des plus grandes arrestations de l'histoire du crime canadien?
Je ne saurais pas dire jusque-là, mais c'est un dossier très important. Parce que c'est un gars qui était charnière au niveau de l'importation d'un premier temps avec le cartel mexicain. Le cartel mexicain est à peu près une des plus grosses routes, je vous dirais, qu'en ce moment on peut avoir au Canada. Fait qu'ayant un joueur comme lui, puis ce qui est important, c'est que c'est un gars qui avait une double vie. C'est un gars qui avait une vie sociale interlope importante. Puis c'est un gars qui, de l'autre côté, était un solide trafiquant, mais en plus, qui était responsable d'une équipe des tueurs à gage que ces gars-là ont. C'est un gars qui était dangereux et drôlement efficace. Fait que c'est assurément un gros joueur parce que c'est un dossier. T'sais, quand je regarde le dossier de Frédéric Silva qui s'en vient, c'est quand même important. C'est un tueur qui a fait parler de... il va parler d'une soixantaine de meurtres. C'est énorme aussi. Tandis que là, lui, un gars comme lui arrêté, c'est actuellement un des gars qui était... je dirais, une pièce centrale, du moins, d'un très gros réseau de trafic et de tueurs à gages.
Oui, c'est ça. C'est le tueur à gages, moi, qui me donne les frissons. Donc, là, Ryan Wedding, avec, ouais, 15, 20, 25, là, on connaît pas le nombre, tueur à gages qui faisait les jobs pour lui puis qui lui permettait, justement, de contrôler ce réseau-là?
C'est ce qu'on comprend un peu. Voyez-vous, quand on fait du trafic de stupéfiants, ce qui est pas le fun, faut que tu fasses ta distribution, faut que tu fasses ta collecte d'argent, mais il faut aussi que tu continues à fidéliser les gens envers toi. Mm-hmm. Puis dans ce volet-là, tu as tout un volet intimidation qui est à faire. C'est pour ça que nous, on a souvent vécu avec le monde des Hells Angels, où est-ce que il y avait un logo terrifiant et j'en passe, et des techniques qui ont utilisé. Là, ces derniers mois, on a vu d'autres gangs s'y prendre, mais les Mexicains ont toujours montré qu'ils étaient impitoyables depuis des années. Et voyez-vous, là, ça, c'est un gars, c'est un Canadien qui travaille pour eux depuis des années, mais qui devenait l'outil final d'intimidation et qui s'organisait pour tuer des gens ou faire tuer des gens à partir de personnes. Alors, puis tout ce volet-là, le volet mexicain, comprenons-nous, là, et ces gens-là ne s'identifient pas de la même façon que certains membres du crime organisé qui aiment porter des vestes et des tatous. Ils sont beaucoup plus discrets dans leur organisation et ils essayent de faire un peu la double vie. Alors, trouver des tueurs qui vont accepter d'aller tuer. Ouais, tu vas tuer ce gars-là, c'est quoi de la rue? Ouais, mais c'est qui? Mais non, ce gars-là, c'est un important importateur. C'est un gars qui est lié avec un autre. L'autre, c'est le gars qui a un run d'argent. L'autre, c'est le gars qui nous a trahi dans tel dossier. C'est toutes ces choses-là qui ont à faire. Fait que c'est vraiment du travail à, je vous dirais, j'ai envie de dire deuxième et troisième niveau, là. On n'est pas au niveau de la rue des patrouilleurs. On n'est même pas au niveau premier des enquêtes. On est vraiment au niveau du trafic international. Puis des informations à ce niveau-là international de gens qui jouissent d'une crédibilité, mais qui en abusent beaucoup en faisant ce qu'ils font là.
Puis justement, en prenant en compte tout ce travail-là qui doit être orchestré pour arrêter une personne de ce genre-là, puis entre guillemets, démanteler ce réseau-là, comment que ça s'observe un peu la collaboration entre, par exemple, parce que là, c'est un Canadien qui est au Mexique, que les États-Unis ont sur leur liste des recherchés. Comment ça se passe la collaboration entre les trois pays?
Ben, on a dans chacun des pays, en fait, il y a des collaborateurs canadiens qu'on a là-bas. On appelle ça des LO pour nous autres, là, des officiers locaux, en fait, qui est un point charnière. Ça veut pas dire qu'il sait tout, mais ça veut dire qu'il est capable d'un policier, par exemple, de la GRC, généralement, qui est là-bas installé, au Mexique. Mais on a la même chose côté des États-Unis, quoique la collaboration va assez vite aux États-Unis. Mais il y a quelqu'un là-bas qui collabore. Alors, on passe par ces points charnières-là, et à partir de là, s'installe souvent ce que j'appelle la mentalité du need to know. On va te transférer l'information que tu as besoin et que tu as le droit de savoir, mais on ne t'en donne pas généralement plus que ce que tu as besoin. Mais tu es obligé de collaborer parce que ça te prend des collaborateurs de sur place parce que c'est très difficile de vous garantir que tu parles pas avec un policier corrompu quand tu es en Colombie, au Mexique ou dans ces pays-là. Ça te prend des gens vraiment qui ont montré qu'il y avait une fidélité et qui étaient fidèles à l'organisation. Fait que là-bas, sur place, on confie à ces gars-là la responsabilité de savoir à qui ils vont le dire et comment ils vont le faire. Mais de fil en aiguille, une personne comme M. Redding devenait sûrement une patate chaude pour le Mexique, parce que plus que l'information sortait, quand c'est rendu public, c'est un individu qui devient personnel non grata. Et il va attirer l'attention sur lui et la chaleur. Alors, il n'est même pas dit que c'est pas des gens du Mexique qui l'ont pas dénoncé, ou ailleurs, dépendamment où ce qu'ils l'ont retracé, là. Mais souvent, tu as des collaborateurs locaux qui disent, non, t'as peu ce gars-là, il nous attire trop de chaleur, là. On le conserve ou on s'en débarrasse. Et le système là-dessus est très, très ingrat très rapidement.
Pour rappel, on parle avec Roger Ferlin, ex-enquêteur au SPVQ, de l'arrestation de Ryan Wedding, cet ancien athlète olympique canadien, qualifié récemment par le directeur du FBI de Pablo Escobar des temps modernes. Roger, pourquoi il va être jugé aux États-Unis et non au Canada s'il exportait de la drogue dans les deux pays?
Ça va dépendre encore là du dossier primaire qui origine pour lui, en fait. Fait que sûrement que les États-Unis avaient déjà des dossiers d'importation, parce qu'on sait que le Mexique a utilisé beaucoup de routes par des camions ou d'autres façons aériennes qui passaient justement par les États-Unis. Au fil du temps, beaucoup d'informations leur parviennent. Alors, c'est eux qui avaient assurément initié l'enquête. Peu importe, même si le gars avait un rôle international qui dispatchait du monde un peu partout, on a vu dans plein d'autres pays, pour rechercher, par exemple, quand il voulait rechercher pour faire tuer quelqu'un, ben c'est celui qui a initié le dossier. Fait que, comme nous autres, par exemple, c'est pas du même calibre, mais que le Pic-sur-Mel va être rapatrié ici un jour.
Ouais.
Ben, lui, ses crimes ont été commis là-bas. Ceux qui ont enquêté au début, puis qui ont dit, regarde, Canada, le connaissez-vous? Mexique, connaissez-vous? Tel autre pays, connaissez-vous? Oui. C'est eux qui étaient le point central, simplement. Ça en prend un, mais principalement, ses crimes reprochés les plus importants doivent être aux États-Unis.
En terminant, Roger, sort à la série Netflix sur sa vie, qu'on apprenne comment un athlète olympique a fait pour devenir le Pablo Escobar canadien?
Ben, ça peut être relativement intéressant, tout à fait, oui, de voir ça. De voir à quel point, à un moment donné, ces gens-là vivent de grands moments, de grandes opportunités, mais à cause de ça, vont souvent chercher les zones d'ombre au lieu de rester dans les zones de lumière.
Ouais.
Je fais référence à Star Wars un petit peu, mais c'est vraiment ça, à un moment donné. Tu peux toujours choisir ce que tu veux, puis dans ces moments-là, c'est le fun de voir comment ça que ces gens-là, ça bascule dans leur tête, qu'est-ce qui se produit. C'est peut-être pas nécessairement des mauvaises personnes, mais qui font constamment des choix. Eux, on leur offre souvent de plus grands choix ou plus grandes opportunités. Vont-ils être aussi sages?
Ouais.
Je ne sais pas, mais c'est toujours le fun de découvrir comment est-ce qu'ils en viennent à avoir des pensées criminelles à ce point-là.
Ça m'amène à une dernière question. Est-ce que, justement, de comprendre la logique psychologique derrière ce changement de cap-là d'un individu comme Ryan Whiting peut vous aider dans des enquêtes futures?
Ça nous aide dans des enquêtes futures, mais ça nous aide aussi, j'ai envie de dire, beaucoup plus, Jeff, en prévention.
Okay.
Travailler en ce moment pour comprendre à quel moment quelqu'un, ça bascule dans sa tête, à quel moment ça se fait. Puis je peux te dire, moi, au fil de mes années, j'ai eu plusieurs collaborateurs qui étaient des criminels, mais qui te donnaient de l'information, il faut qu'ils t'en donnent. Mais ça me permet de comprendre, Colin, je pense qu'il y a des moments où il faut que tu tutorises un petit peu, là. Tu sais, mettre un tuteur à côté de nos enfants quand ils grandissent, surtout quand ils ont de grandes opportunités. Combien on a vu de grands athlètes sportifs, des fois, l'échapper, déraper? Ben oui, ils ont de l'argent dans leur poche. Pourquoi ils essaieraient pas sex, drug and rock and roll, comme on disait dans le temps, là? Les opportunités sont là plus grandes pour eux. Mais ça demande beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité à côté pour être capable de le faire. C'est pour ça que quand on comprend des fois, à un moment donné, quelles sont les opportunités qui le sont offertes, on est capable de peut-être un peu mieux travailler et prévenir un peu ces actions-là dans le futur pour nos jeunes. Parce que c'est beau de voir qu'on les idéalise sur le podium, mais des fois, on n'a pas idée par quel chemin ils ont passé pour se rendre là.
En effet. Roger Ferland, merci beaucoup pour ton extraordinaire contribution à l'émission d'En Jase et on se reparle prochainement.
Bonne journée à vous. Bonne fin de semaine, gang.
Salut, Roger. Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, également enseignant technique policière au Cégep Garneau. On revenait sur l'arrestation de Ryan Whiting, ex-athlète olympique, décrit par le FBI américain comme le Pablo Escobar canadien. C'est une énorme prise qui a été faite en collaboration. C'est les policiers au Mexique, le FBI et la GRC qui ont permis cette arrestation.
D'ailleurs, c'est fou raide de dire on peut regarder la vie d'un individu. Puis à un moment dans sa vie, cet individu-là était au top des tops dans un sport olympique.
En snowboard.
Était un athlète incroyable. Puis à un autre point dans sa vie, c'était surnommé le Pablo Escobar des temps modernes. C'était un narcotrafiquant de grande envergure en Amérique du Nord. C'est fou pareil.
C'est très fou, ça ne fait pas de sens, mais c'est une histoire réelle et non pas une histoire de fiction. Parlant d'histoire réelle, Mathias, après la pause, on parle avec Alex Laramée, journaliste au 99.5. On va se faire une belle chronique sportive, parce que dans le réel, il y a eu une défaite du Canadien 4-2 hier contre les Sabres. Il y a un match samedi soir contre les Bruins et il y a surtout deux matchs très importants qui mènent les équipes au Super Bowl dans la NFL, c'est-à-dire les Patriots de la Nouvelle-Angleterre vont affronter les Broncos à Denver. Et les Rams de Los Angeles vont rendre visite aux Seahawks à Seattle. Donc, restez avec nous. On parle de ceci immédiatement après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 101.
Qu'à 14h, On en jase à Boulevard 101. Jeff Fortin et Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité.
Boulevard 101.
Pour faire du pouce sur la meilleure musique de la business, les amis, ben c'est en fin de semaine. Puis la fin de semaine à Boulevard, ça commence le vendredi soir. 18h, Garage à Dan, mon émission préférée. Je vais écouter ça en m'en allant à l'aréna de hockey tout à l'heure. Rock and Chill, samedi dimanche matin de 7h à 10h. Tu ne veux pas manquer ça. Le meilleur du rock acoustique. C'était écœurant. Petit café, Rock and Chill. Tout est beau dans la maison, même si les enfants crient. Et samedi dimanche après-midi, Dan Caron samedi, Colosse le dimanche, la meilleure musique boulevard du rock. Rock à Mat de 15h à 17h les samedis et dimanches. Ça, il y a des bons vieux classiques rock qui ressortent. Enter Sandman, que j'ai joué dans mon auto à tue-tête dimanche en descendant de Rivière-du-Loup. Oh! que c'était plaisant. Donc, manque pas la programmation de Boulevard et c'est la programmation régulière parlée qui revient le lundi. 6 à 10, Marceau le matin avec Yannick Marceau, Max Larouche et moi-même, Jeff Fortin. 10h à midi, Point de Max avec Max Larouche. On en jase. Lundi, ça va être moi et Mathias qui vont être présents. Pascal CV revient avec moi mardi. Et également le retour de Gravel qui suit de 14h à 18h et qui va suivre aujourd'hui de 14h à 18h. Il y a une fête dimanche, hein? Fête à Denis Gravel. Hâte de voir ce qui va se passer.
Moi, j'ai entendu dire qu'il allait avoir des feux d'artifice.
Des
tantôt.
Feux d'artifice pour Denis Gravel.
Dans, dans le studio.
48 ans, ça se fête. Mathias, avant qu'on parle de sport avec notre collègue Alex Laramé du 99.5 Montréal, qu'est-ce qu'on doit savoir dans l'actualité?
Oui, juste rapidement sur les routes, là, présentement, 20 direction ouest, c'est entre Chemin des Îles, puis... On peut dire, Taniata, que ça se passe. Il y a un ralentissement dans le secteur. Si vous avez des informations, 88-971-1021. Course à chefferie à la CAQ. Des nouvelles règles se sont ajoutées aujourd'hui. On apprend du côté du Journal de Québec. On avait appris, en fait, hier, que les personnes qui se lanceraient dans la course devront abandonner leur poste de ministre, mais garderaient leur salaire de ministre quand même, ce qui semble... contradictoire.
Oui, exactement.
On va se dire.
Là, on est revenu sur notre décision.
Ben, ouais. C'est ça. Les partis d'opposition ont critiqué la décision. Donc, on a dit du côté de la CAQ qu'on va abandonner le poste de ministre, puis on va perdre le salaire de ministre également. Je rappelle que Christine Fréchette devrait annoncer se lancer officiellement dans la course ce dimanche. Du côté de Bernard Drainville, ça devrait être annoncé également prochainement. On attend la confirmation.
Selon des bonnes informations de Lambert Drainville. Donc, ça devrait être prochainement.
Je pense qu'on peut dire que c'est une bonne source, on va dire comme ça. Simon-Jeannin Barrette, on attend encore des nouvelles de son côté. Le discours de Mark Carney hier, qui a prononcé du côté de la ville de Québec, notamment sur l'histoire, sur les plaines d'Abraham, sur l'union entre les Québécois et le reste du Canada.
Ce n'était pas une guerre, c'était une conciliation entre deux peuples qui voulaient travailler ensemble.
Oui, okay. Ben, ça continue de faire réagir, Jeff. On voit, ça fait réagir Jeff, ça fait réagir probablement plusieurs auditeurs, ça fait réagir les souverainistes beaucoup également. Et là, c'est des membres du Bloc québécois qui sont choqués par les propos de Mark Carney. On l'accuse de réécrire l'histoire canadienne. Également, on critique lorsque Mark Carney a dit que les Québécois avaient réaffirmé leur appartenance au Canada lors des référendums en 1980 et 1995, vu que ça avait été une majorité de Québécois qui avaient voté pour rester dans le Canada, ben Mark Carney a dit ils ont réaffirmé leur appartenance au Canada. Bon, du côté du Bloc québécois, on ne dit pas exactement ça que ça veut dire. Et je termine avec la température qui sera difficile en fin de semaine, on va se dire. Durant les nuits, c'est des températures ressenties de moins 35, moins 40 jusqu'à moins 50 dans certains secteurs du Québec, pas à Québec, heureusement. Puis je trouvais ça drôle parce que je disais une nouvelle tout à l'heure, puis certains l'ont peut-être vu passer. Donald Trump a utilisé ce fameux vortex polaire-là pour dire « Hey, vous savez quoi? Réchauffement climatique, ça n'existe pas. Ouais. Il va faire froid en fin de semaine. »
On confond température et climat aux États-Unis. On n'a plus besoin de vaccins pour la rougeole et la méningite. Oh! Wow! Ça va bien. Les scientifiques existent pour rien.
La science existe tout simplement.
Ça existe, la science! Ouais. Voyons, la Terre c'est est quoi, plate. Ça? Qu'est-ce que tu dis là? On s'en va rejoindre Alex Laramé parce que tant qu'à parler de Donald Trump, on va parler du Canadien de Montréal. Ça va être pas mal plus plaisant. Quoique peut-être pas positif en raison de la défaite d'hier de 4-2. Alex, va-tu falloir commencer à parler encore des gardiens de but? Qui va garder les filets avec la performance de Samuel Montembeault hier?
Ben c'est sûr que ça pose la question. Hein. Ça n'a pas été la meilleure partie de Samuel Montembeault, notamment en première période. Il n'y a eu pas beaucoup de tirs, accordé deux mauvais buts, un autre but en début de troisième période. Ça a plongé le Canadien avec un déficit de 3-0. On a vu Dobesch dans les derniers matchs. Le truc avec Dobesch, c'est quand on le regarde devant le filet, il n'y a pas de technique. Dobesch, il est échevelé, il se lance dans tous les sens. On ne sait pas trop comment il fait pour arrêter
Mais
les rondelles.
Il gagne les matchs.
Ben exactement. Au final, on regarde sa fiche. 15 victoires depuis le début de la saison. C'est le gardien de but qui a ramassé le plus de victoires. Il y a par-dessus Samuel Montembeault et Jacob Fowler, évidemment. Donc oui, selon moi, ça pose la question. Surtout samedi, on s'en va à Boston. Affrontement de division. On sait que là, on vient d'en échapper deux en deux semaines du côté contre les Sabres. Donc, il faut absolument gagner ce match-là. Moi, si j'avais à mettre un petit 2, ça va être Yacoub Dobesh qui va être devant le filet, considérant la performance de Montembeau-Hier.
Dobesh, là, puis je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, les gars, mais il me fait penser à un lanceur du baseball majeur, un lanceur partant, qui finit l'année, exemple, à 4,15 de moyenne de points mérités. Fait qu'à chaque départ, il donne en moyenne 4 matchs, mais il finit à 15 victoires, 5 défaites, parce que il fait les trois retraits au bon moment dans un match offensif. Ça, c'est... Dobesh, on dirait que c'est ça. Il fait toujours l'arrêt important au bon moment, même s'il n'y a pas de grande performance devant le filet. Je me trompe-tu?
Puis j'ai envie de te dire aussi, il n'y a pas forcément un mauvais but accordé par match. Là, parce que faut se c'est dire, puis c'est rendu un peu un mime, mais c'est devenu un mime parce que c'est vrai. Samuel Montembeau, à chaque match, il y a au moins un mauvais but. Puis un mauvais but par match, quand t'es un gardien, ça peut faire mal. Puis on le voit, t'as raison d'en reparler des gardiens, Jeff, parce que présentement, le Canadien, on va se le dire, ils ont joué un bon match. Pour moi, contre les Sabres, la meilleure équipe sur la patinoire hier, c'est le Canadien. Puis on a quand même échappé ces matchs-là. Puis on a vu des matchs être échappés malgré le fait qu'on jouait bien cette saison, notamment à cause du fait qu'on se fait scorer beaucoup de buts, puis parfois des mauvais buts. Le Canadien a la quatrième meilleure offensive de la Ligue. Égalité même au troisième rang. 172 buts. Les seules équipes qui sont devant nous, c'est les Oilers puis l'Avalanche. C'est pas gênant pantoute. Par contre, on a la quatrième pire défense de la Ligue aussi. C'est fait que ça vient s'équilibrer un peu.
En effet.
Puis ça crée des problèmes. On a vu des équipes des Canadiens au cours des 10, 20 dernières années qui scoraient presque pas de buts, mais qui avaient une très bonne défensive. Là, ce qu'on voit, c'est complètement le contraire.
Alex, la dernière fois que le Canadien affrontait les Bruins de Boston, il l'a emporté 6-2 à Boston. C'était le retour de Philippe Dano dans l'uniforme du Canadien. C'était le 23 décembre. Les Bruins avaient un petit passage à vide. Ça va beaucoup mieux pour Boston. Victoire de 4-3 hier contre les Golden Knights. Tu t'attends à quoi samedi?
Ben moi, je veux voir le Canadien sortir excessivement fort, notamment en début de match. C'est ça qui a coulé, le Canadien contre les Sabres. La première période, le Canadien n'était pas là. Mauvais but de Samuel Montembeau. Faut vraiment sortir en force, mettre le ton au match, essayer de calmer un peu la foule du côté du TD Garden. Je m'attends aussi à voir Arber Jacquet revenir dans l'alignement. Honnêtement, j'ai pas compris pourquoi on l'a sorti. Jadon Subo, ça a été laborieux dans les deux derniers matchs. Honnêtement, contre le Wild, ça avait vraiment été difficile. Moi, je m'attendais à ce que Harbour revienne contre les Sabres, qui ne sont pas nécessairement une équipe physique, mais ils ont quand même des gros joueurs, notamment Tage Thompson. Donc, selon moi, ça prend Harbour Jacquet. On sait que contre Boston, c'est toujours des matchs avec beaucoup d'émotions, un samedi soir en plus. Donc, moi, c'est le genre de changement. On va peut-être voir aussi d'autres blessés revenir. Alexandre Texier s'entraîne. Saint-Louis, dans les derniers points de presse, disait qu'il n'est pas assez en santé pour jouer. Même chose du côté de Patrick Laine, qu'on voit patiner depuis maintenant presque deux semaines. Toujours pas disponible pour le Canadien. Donc moi, je m'attends au moins à voir Texier revenir dans l'alignement, probablement, qui va être laissé de côté. Selon moi, Veleno doit céder sa place. C'est probablement le gars qui est plus facile à tasser. Donc moi, je m'attends à voir Jacquet et Texier revenir dans l'alignement. Puis il faut jouer une game physique. Il faut continuer d'y aller avec nos forces, la rapidité. Puis on va être capable de disposer des Bruins de Denis. Là. Je veux dire, désolé, Denis, mais on va gagner.
On parle avec Alex Laramie, notre collègue journaliste au 99.5 Montréal, chronique sportive avec Alex. Retour de Mitch Marner ce soir à Toronto dans l'uniforme des Golden Knights. Moi, je m'attends avec la fin chaotique que ça a eu, qu'il se fasse suer au début du match. Bon, il va avoir la petite ovation après le vidéo sur le tableau, mais ça va être un match très spécial et rempli d'émotions à Toronto.
Ah, c'est sûr qu'on va en entendre parler de cette partie-là. Je suis un peu comme toi, Jeff. Moi aussi, je pense qu'il va se faire huer. Mais je vais vous dire pourquoi il ne devrait pas se faire huer.
Hey, vas-y, ça m'intéresse.
Mitch Marner, quand même, dans l'histoire des Maple Leafs, une organisation Original Six, c'est le sixième meilleur pointeur dans l'histoire de Toronto. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont sur le cœur le fait justement qu'il est signé avec les Golden Knights, aussi qu'il ait refusé un échange, parce que c'est une rumeur qui est pratiquement confirmée que l'année passée, il y avait un échange entre les Maple Leafs et les Hurricanes pour faire venir Mikko Rantanen à Toronto. Mitch Marner aurait refusé cet échange-là, mais la réalité, c'est que l'erreur, selon moi, doit revenir à l'état-major des Maple Leafs, parce que Mitch Marner, dans son contrat, à l'été 2023, il avait une clause de non-mouvement complète qui s'activait le 1er juillet. Et Carl Dubus, le directeur général à l'époque, avait fait une conférence de presse où il disait « Là, je dois démanteler le core four qu'on appelait les quatre joueurs en Matthews, Marner, Nylander et Tavares. » Et quelques jours plus tard, il se faisait congédier. On amenait Brad Treliving qui lui dit « On va continuer avec le core four. » On a laissé la clause de non-mouvement qui, au final, a été utilisé par Marner pour empêcher l'échange. Si on avait gardé Dubus, probablement que Marner se faisait échanger, on ne le perdait pas pour rien et on ne se ramassait pas dans cette histoire aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, selon moi, les partisans des Maple Leafs devraient huer leur état-major plutôt que de huer Mitch Marner, qui, lui, a fait ce qui est le meilleur pour lui, honnêtement, dans votre position. Moi, je me mets à la place de Mitch Marner. Moi aussi, je quitte Toronto, puis je m'en vais signer à Vegas. Les chances d'une coupe sont bien meilleures là-bas.
Oh, je suis très d'accord avec toi, Mathias. D'accord avec Alex?
Ben, je suis d'accord que l'état-major de Toronto mérite de se faire huer, puis d'aplomb à part de ça. Par contre, en tant que partisan du Canadien, un joueur comme Mitch Marner refuserait un échange, sachant très bien qu'il veut quitter l'équipe, moi, ça me fâcherait en maudit. Puis je me réserverais le droit de dire, si je suis au Centre Bell, quand il revient au Centre Bell, je vais le huer puis ça va me faire plaisir. Je comprends, puis je comprends Mitch Marner de quitter, mais si tu veux quitter, si tu as prévu quitter durant l'été, rendu là, si ton équipe veut t'échanger, accepte-le tant qu'à moi.
On passe à la NFL, messieurs, avec les matchs Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre Broncos de Denver et Rams de Los Angeles contre Seahawks de Seattle. On commence avec le premier match, 15h dimanche, Patriots contre Broncos. La perte de Bo Nix, Alex, va faire en sorte qu'on va revoir les Pats au Super Bowl?
Je vais dire non, je vais en surprendre plusieurs. Tout le monde est prêt à éliminer. Tout le monde est prêt à éliminer les Broncos de Denver. Mais moi, je vais vous dire, les Patriots ne m'ont pas impressionné là, en éliminatoire. Ils ont battu les Chargers de peine et de misère. CJ Stroud a fait quoi? 6 revirements, 7 revirements dans un match. Ils ont gagné par à peine 2 possessions. Le match a quand même été serré pratiquement jusqu'à la fin du 4e quart. C'est sûr que la défense des Patriots est très solide, notamment pour le jeu au sol. Si Denver n'est pas capable d'implémenter un jeu au sol, selon moi, ça va être difficile de gagner. On sait que c'est Jared Stidham qui va être corps arrière. Mais Jared Stidham a eu quand même quelques départs en carrière. Il n'en est pas, c'est un vétéran, ça reste un deuxième corps arrière. Mais selon moi, il n'y aura pas à tout faire. La défense des Broncos est assez solide. Si on est capable d'aller chercher quelques revirements, selon moi, la défense des Broncos va être capable de faire le travail. Puis on va faire l'upset, puis on va aller remporter ce match-là contre les Pats.
Moi, je vais avec les Patriots en raison de l'absence de Bo Nix et du génie défensif de Mike Vrabel à la tête des Patriots. Toi, Mathias?
Moi, je vais y aller avec les Broncos juste parce que je veux pas voir les Patriots en finale. Pour moi, une équipe qui a eu une fiche, une saison aussi facile, des adversaires aussi mauvais, puis qui par la suite ont un parcours en série qu'on va s'entendre relativement simple, mérite pas d'aller au Super Bowl.
C'est un bon point, donc on verra lundi lors de la chronique d'Alex Laramie qui aura eu raison. Pour le dernier match, les Rams contre les Seahawks. Les Seahawks sont aussi amochés. Perte de Charbonnet comme porteur de ballon. Sam Darnold n'est pas au meilleur de sa forme comme corps arrière. Mais de toute façon, même si les Seahawks étaient en santé, moi, le duo Matthew Stafford-Sean McVay, je trippe sur ce duo entraîneur corps arrière-là. Matthew Stafford est sur une autre planète cette année. J'y vais avec les Rams.
Ah, je suis avec toi, Jeff. Selon moi aussi, les Rams vont gagner. C'est un affrontement, par exemple, qui va être très intéressant parce que Sean McVay, on sait, c'est un gourou offensif. Et du côté de Seattle, l'entraîneur-chef McDonald est un gourou défensif. Donc, selon moi, c'est là que ça va se passer. Est-ce que les Rams sont capables de mettre des points au tableau? Puis est-ce que la défense de Seattle est capable d'arrêter l'attaque des Rams? Je m'attends à un affrontement serré. Selon moi, c'est le genre de match que la dernière équipe qui touche le ballon va gagner. Mais je vais me ranger du côté des Rams. Ils ont le meilleur corps arrière. Ils ont des receveurs étoiles. Selon moi, ils vont l'emporter. Et c'est l'équipe que j'avais choisie pour remporter le Super Bowl au début des séries éliminatoires. Je garde ma prédiction. Les Rams remportent le Super Bowl cette année et remportent en fin de semaine.
Je vais y aller pour les Seahawks de mon côté. Mais je pense, par contre, que le Super Bowl se joue dans ce match-là. Je ne vois pas ni les Patriots ni les Broncos battre une équipe comme les Seahawks ou les Rams. Peu importe qui passe pour moi.
Alex Laramie, merci infiniment pour ta participation. On se parle lundi, midi 35. On va revenir sur les matchs de la fin de semaine dans la NFL, également sur le week-end du Canadien de Montréal.
À lundi prochain, les gars. Attention à vous autres.
Salut, mon chum. Alex Laramie, que vous entendez sur nos ondes à l'émission On en jase. On parle de sport avec Alex, c'est très plaisant. Connaît ça, il est rempli de connaissances et de statistiques. Toujours très, 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 très intéressant de parler avec Alex Laramie. Après la pause, Mathias 2. entrevues qui vont intéresser nos auditeurs. La première, Maude Raymond, présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec, les fameuses IPS. Savais-tu qu'on vise de leur donner 585 000 patients, mais qu'à présent, ils en ont juste 3 600 en charge? Comme quoi, ça va encore bien dans le système de santé.
Des objectifs réalisables.
Oui, exactement. Et on va également parler avec Guillaume Bouvrette, président du syndicat de professionnels et professionnelles du gouvernement du Québec. Ils sont en beau joie le vert de revenir 3 jours au travail à compter de lundi prochain. 93 % de leurs membres se sont prononcés contre la décision du gouvernement. Donc, on fait le tour de ces deux dossiers après la pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Il est précisément 13h29 minutes, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase. Pour nous joindre, 418-971-1021. La web radio au blvd.fm et les meilleurs moments de toutes nos émissions sur notre belle programmation. L'application Boulevard 102.1, c'est disponible sur App Store, Google Play Store. Téléchargez-les, c'est gratuit, ça vous permet de nous écouter partout où vous êtes. twitch.tv/blvd/fm pour venir voir notre belle face en studio. Donc, beaucoup de gens ont commenté justement le segment d'Irénée Rutema avec Stéphane Lachance et Bruno Marchand. C'était très intéressant de vous lire. Et abonnez-vous à notre page YouTube. Vous retrouvez plein d'exclusivités sur cette belle page. Mathias, avant de passer à Maude Raymond, qui est justement la présidente de l'Association des infirmières spécialisées, les IPS, circulation à mentionner.
Oui, la circulation aujourd'hui semble commencer sur la rive sud. Présentement, ralentissement sur la 20 en direction ouest. Ça se passe entre avenue Taniata et chemin des Îles. Si vous avez des informations, 88-971-1021.
Je vous le disais avant la pause, on vise que les infirmières praticiennes spécialisées, les IPS, et 585 000 patients sous leur gouverne. À l'heure actuelle, ils n'en ont que 3 600. Et pour comprendre pourquoi ce retard, on va parler justement avec la présidente de l'association, Maude Raymond. Madame Raymond, merci de participer à l'émission. On en jase.
Merci de me recevoir.
Madame Raymond, qu'est-ce qui explique qu'on ait seulement 3 600 patients qui sont pris en charge présentement par les IPS?
C'est sûr que ce chiffre-là de 3000 patients, on parle vraiment des IPS en GMF qui ont pris à la RAMQ des patients officiellement. Donc, c'est vraiment là, des patients qui, de médecins qui partaient à la retraite, qui avaient une possibilité d'inscrire ces patients-là directement à la RAMQ avec un processus administratif qui est assez ardu. Mais sinon, en ce moment, les IPS, dans certains milieux, ont des caseloads, donc des patients partagés avec les médecins, mais qui sont officiellement à la RAMQ au nom des médecins. Donc, pour nous, c'est ça qu'on veut pouvoir prendre les patients directement à notre nom. Puis, c'est vraiment en GMF, c'est une négociation avec la FMOQ, le ministère et la FIC, qui dure depuis plus de 2 ans, qu'on est bien tanné qu'elle dure, parce que nous, on veut faire aussi notre part dans le système puis dans l'accessibilité des soins, puis nous sommes prêts à prendre en charge ces patients-là.
Puis justement, là, l'objectif, c'est 585 000 patients. Pour vous permettre de faire ça, est-ce qu'il y a des mesures qui pourraient être mises en place pour vous permettre de prendre directement les patients?
Bien, c'est sûr qu'en ce moment, légalement, on peut prendre en charge à la RAMQ, mais vraiment dans les milieux GMF, où est-ce qu'on parle d'à peu près 1100 IPS-PL actuellement, où est-ce que c'est 95 % des IPS en première ligne, il faut vraiment que cette entente de collaboration vienne à un terme qui va nous permettre de prendre en charge cette clientèle-là. Fait que c'est vraiment dans les mains ministère, FMOQ et FIC. Puis on sent quand même qu'il y a un aspect de patient qui est co-suivi. Donc, un médecin à la RAMQ, 500 patients à son nom, mais réellement, il y a 400 patients qui sont suivis par l'IPS. Donc, si on prend ces patients-là qui sont déjà suivis, on en prend des nouveaux, bien, le médecin aussi, par la bande, va devoir prendre de nouveaux patients. Donc, les deux professionnels vont pouvoir augmenter l'accessibilité.
Est-ce qu'on est encore dans une guéguerre médecin-infirmière puis les médecins qui veulent se garder une chasse gardée?
Mais je vous dirais qu'en ce moment, ce qu'on peut voir, c'est que quand on co-inscrit un patient, ça compte quand même dans les cibles du médecin à atteindre. Donc, par la bande, il peut faire ses autres activités à l'hospitalisation. Ses patients sont quand même suivis par un autre professionnel. Tandis que si on prend nos patients qui est plus autonome à notre nom, bien, c'est sûr que le médecin devra prendre des patients de plus. Donc, est-ce que ça va venir jouer au niveau de leur organisation du travail? Puis, il y a quand même aussi un aspect monétaire de prise en charge d'un patient qui a un forfait qui est quand même assez intéressant pour eux.
Donc, vraiment, c'est ça, on est encore dans le fameux mode de rémunération là, à l'acte. Parce que je fais un calcul rapide. Si vous réussissez à atteindre la cible de 585 000, on veut qu'un million de Québécois aient accès à des médecins de famille. Bon, on a déjà la proportion de 58 % de fait, là, si vous faites, si on réussit à vous transférer ces patients-là.
Exactement. Nous, il y a quand même un guide qui existe au niveau du ministère qui prévoit le nombre de patients par IPS parce qu'ils ont quand même un 40 heures semaine à temps complet. Donc, on est déjà prêt. Nos indicateurs sont présents. En ce moment, il y a des IPS qui n'ont pas de patients des horaires vides parce que justement, ils n'ont pas de prise en charge. Il n'y a pas de possibilité de voir des patients du GAP. Parce qu'on dépend toujours de l'accord médical, donc au niveau des GMS, parce que c'est quand même leur entité à eux. Les IPS sont en prêt de service, donc on peut pas faire ce qu'on veut dans un GMS, malgré que l'IPS est prête à prendre en charge et prête à avoir des patients GAP, il y a des freins administratifs qui est quand même important.
Pour rappel, on parle avec Maude Raymond, présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec. Madame Raymond, qu'est-ce que les IPS peuvent faire ou je poserai ma question différemment, qu'est-ce que les IPS ne peuvent pas faire qui doit absolument être fait par les médecins?
Bien, en ce moment, il y a des barrières au niveau de l'évaluation des troubles mentaux, donc de faire un diagnostic en santé mentale. Par contre, on voit dans nos cliniques d'IPS où est-ce qu'il n'y a pas de médecin, on a nos collègues IPS en santé mentale que eux peuvent faire ce diagnostic-là. Donc, en ce moment, on se réfère vers nos collègues dans d'autres spécialités. Mais en ce moment, je vous dirais que c'est le plus gros frein en première ligne, c'est l'évaluation des troubles mentaux. On travaille fort avec l'OIQ pour régler ce problème-là dans les prochains mois. Mais en ce moment, dans même des cliniques pas de médecin, on est capable de gérer les évaluations des troubles mentaux avec nos collègues. Donc, on gère le patient à 100 %.
Donc, en terminant, là, si je comprends bien, on est en mesure présentement au Québec, avec la formation que les IPS ont reçue et les compétences qu'elles ont, de prendre en charge ces 585 000 patients-là.
Nous, on est prêts à prendre en charge des patients. On veut faire partie de la grande solution pour l'accessibilité. Je pense pas que ça revient juste à nos collègues médicaux d'augmenter l'accessibilité. Je pense qu'on est tous là pour donner davantage aux patients. On est prêts, on est formés. On veut avoir le moyen de le faire, donc donner cet accord-là pour qu'on puisse le faire en GMS. Puis on va prendre en charge ces patients-là.
Madame Raymond, merci beaucoup de votre participation à l'émission On en jase et au plaisir de se reparler. Si on courant, je veux en savoir plus sur l'évolution de ce dossier-là parce que en santé, ça passe justement par des nouvelles alternatives et vous en proposez une qui pourrait justement faire énormément de chemin pour les patients au Québec.
Merci beaucoup.
Merci. C'était Maude Raymond, présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec. Mathias, il faut régler ça au plus vite.
On n'a pas le choix. Je veux dire, on a un système de santé, on a des personnes qui sont là, qui sont prêtes à prendre davantage de patients, offrir plus de services. Il faut leur permettre d'offrir plus de services, par contre.
Exactement. Je serais très déçu quand on a parlé avec Pascal Renault, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens ici à Québec. Il nous a dit l'objectif, c'est le 30 juin pour aller chercher justement ce million de patients-là. Je serais bien déçu qu'au 30 juin, les IPS n'aient pas 585 000 patients.
Puis j'ai l'impression que malheureusement, tu vas être déçu si on regarde la tendance par où ça va.
C'est ça qui est plate à être cynique, toujours, avec notre système de santé. minutes. Autre sujet qui fait beaucoup jaser, Mathias, c'est ce retour à compter de lundi à 3 jours en présentiel de la fonction publique québécoise. Et pour en parler avec nous, on a Guillaume Bouvrette, président du syndicat des professionnels et professionnelles du gouvernement du Québec. Monsieur Bouvrette, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui.
Monsieur Fortin, merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Monsieur Bouvrette, faut que je vous avoue. Moi, au départ, j'étais là, puis je me disais, ben ouais, on commence ça qui chiale 3 jours en présentiel. Moi, je viens de 5 jours en présentiel au travail, puis il n'y a rien là, puis ça. Mais là, si je comprends bien, c'est que on vous amène en présentiel, mais vous faites encore plein de réunions Teams parce que c'est pas tout le monde qui est là.
Oui, c'est clair, parce que la première question qu'on pose, c'est pourquoi? Pourquoi on fait ça? Puis je précise qu'on n'a jamais réclamé du télétravail à 100% à l'extérieur des bureaux, là, c'est pas vrai. Puis il y a une valeur ajoutée à se voir, à croiser les gens, mais il y a aussi une valeur ajoutée à pas perdre du temps dans le trafic. Maintenant, il faut adapter ça au milieu, aux tâches. Il y a des jobs qui se font pas à distance, il y a des jobs qui se font moins bien, mais aussi des périodes de l'année, puis des mandats où ça varie, où on a besoin de plus de créativité, de collaboration à l'intérieur d'une équipe, puis qu'on peut demander d'être plus présent à ces milieux de travail. D'autres où on peut faire ça à distance et être gagnant dans tout ça, tant pour le personnel que pour la productivité de l'État.
c'est le mur à mur, dans le fond, le 3 jours/semaine mur à mur que vous décriez. Parce que, par exemple, si je vous écoute, vous seriez ouvert à ce qu'un employé soit 5 jours au travail une semaine donnée parce qu'on doit plus, on doit travailler davantage en équipe pour faire avancer un projet X?
C'est clair, et ça permet d'adapter aux tâches, d'adapter aux réalités régionales. On a régionalisé plusieurs postes dans l'appareil public les dernières années. Il y a des gens qui ont des équipes de travail éclatées à travers le Québec. On va leur demander de se rendre à leur bureau, mais pour travailler en visio avec leurs collègues qui sont partout ailleurs. Alors, il n'y a pas de valeur ajoutée derrière ça. La politique actuelle, elle a été rédigée, je veux dire, rapidement, là, parce que c'est pas très ambitieux. Elle manque d'envergure à notre sens. Elle devrait donner des règles claires, des règles de gestion qui permettent de décentraliser l'information. Et c'est pas ça qu'on fait. On a choisi la voie facile.
Ben justement, ce serait quoi? Parce qu'on veut pas 3 jours. Ce serait quoi dans l'idéal, la réglementation à propos de ça? Le monde fait ce qu'ils veulent. Ils vont au travail quand ça leur tente. Ce serait quoi l'idéal pour vous?
L'idéal, c'est de décentraliser la décision, c'est-à-dire de permettre aux gestionnaires de premier niveau de prendre les bonnes décisions. Par exemple, la présidente du Conseil du Trésor a amené comme argument l'intégration de jeunes ou de nouveaux employés dans une équipe de travail. Et c'est un bon argument, mais il est temporaire dans le temps, il varie d'une équipe à l'autre. Alors, au gestionnaire de faire sa job, d'amener son équipe plus présente, de mettre du mentorat en place, avec plus de présence au bureau pour une période donnée quand les circonstances s'y prêtent, mais ça permettrait également de donner de la latitude, de faire preuve de bon sens pour ajuster les demandes de présence au bureau et les permissions de télétravail à d'autres moments en fonction des équipes. Là, on a fait du tapis mur à mur et on va plus loin que ça. Là. On se mêle même des directives dans les agences hors fonction publique. Là. On a appris aujourd'hui, là, c'est un scoop, là, Revenu Québec va ramener les employés plus nombreux au bureau. Alors qu'à Revenu Québec, ça a été démontré, donné à l'appui que l'efficacité a augmenté dans les dernières années, l'absentéisme a diminué et pourtant, on les soumet aux mêmes normes que le reste.
Quelle tâche se fait mieux en télétravail chez les professionnels?
Ben, vous donner une entrevue présentement, pour moi, ça se fait pas mal mieux à pas être dérangé au bureau. Mais blague à part, rédiger des rapports, analyser de la documentation. Écoutez, je vais même aller plus loin. Il y a des notions de confidentialité qui vont être difficiles à respecter dans les retours au bureau. On a optimisé les espaces locatifs de bureaux au gouvernement. On fait des économies avec ça. Là. Par exemple, concret à Québec, là, on ferme un bureau à Sainte-Foy où il y a des agents de probation. On les amène au palais de justice. Là, je vous épargne le fait que si tu habites à Saint-Augustin, finalement, tu te rends au palais de justice au lieu de la Sainte-Foy, là, tu perds un temps.
Oui, puis souvent, tu as choisi ton milieu de résidence en fonction de ton milieu de travail. Là.
Mais oui, mais une fois que j'ai dit ça, là, ce qu'on sait, c'est que comme il va manquer de bureaux, ils vont partager des bureaux parfois à deux. Là, l'agent de probation, il travaille avec des clientèles à haut risque, avec l'information particulièrement confidentielle. Mais tout ça est mis à risque par ces décisions-là qui, je le rappelle, n'ont pas de valeur ajoutée. C'est surtout ça qu'on cherche. On veut des décisions de gestion qui font du sens, qui vont favoriser l'efficacité de l'État. Les services à la population, c'est important. Et là, on demande aux gens d'aller perdre du temps dans le trafic pour aucune bonne raison. C'est ça qu'on dénonce.
Et si le gouvernement sauve de l'argent avec ça, si le gouvernement augmente, entre guillemets, augmente son efficacité dans certains cas même. Mm-hmm. Dans ce cas-là, pourquoi on décide de mettre cette mesure-là en place? Est-ce que c'est purement politique en raison de de l'opinion des gens par rapport au télétravail au Québec?
Ben, c'est comme ça qu'on le voit par moment. On voit des commentaires sur les réseaux sociaux. C'est facile, quand on n'y a pas accès, de critiquer ce mode de travail-là. Puis le travail hybride, hein, c'est une nouvelle réalité, mais qui s'est imposé comme quelque chose qui fonctionne. Parce que quand on creuse, il n'y a pas de données qui justifient de ramener les gens davantage au bureau. Il faut maintenir une présence au bureau, c'est nécessaire, mais les données et même le bilan du Conseil du Trésor dit qu'il y a une perception d'augmentation de la productivité. L'argument de la fatigue numérique à l'écran, c'est n'importe quoi. Là. On va continuer comme professionnel à travailler sur des ordinateurs. Là, on ne rédige plus nos rapports à la main, malheureusement. On a aussi dit que l'absentéisme avait augmenté à cause du télétravail. Ben, je m'excuse, mais ça, c'est une invention, là. C'est pas un lien de corrélation.
C'est quoi le taux d'absentéisme présentement chez les professionnels?
Je n'ai pas cette information-là. Il va falloir le demander au Conseil du Trésor. Je suis désolé. Mais ce que je veux dire sur l'absentéisme, c'est qu'on a gelé l'embauche, on a coupé des postes en fonction publique dans la dernière année de manière importante. Quand on consulte nos membres, il y a une surcharge de travail, il y a une pression qui est constante pour livrer davantage avec toujours moins de ressources. Ben, on se dit que c'est peut-être plus ça la cause d'absentéisme que le télétravail.
On parle avec Guillaume Bouvrette, président du Syndicat des professionnels et professionnels du gouvernement du Québec. On parle de ce retour à 3 jours obligatoires en présentiel à compter de lundi. En terminant, M. Bouvrette, si je vous donnais les clés, quelle piste de solution amèneriez-vous pour que tout le monde soit heureux dans le dossier?
Une plus grande consultation de tous les acteurs, oui, syndicaux, patronaux, à l'intérieur de tous les ministères et organismes, là, les sous-ministres, les hautes directions, je suis certain qu'ils trouvent que ça leur donne pas assez de flexibilité, cette politique-là. Je consulterai également les autres acteurs de la société, là, je pense à la Ville de Québec, aux infrastructures de transport en commun. Le maire Marchand a affirmé que c'était une mauvaise idée de ramener plus de gens au centre-ville cette année avec les chantiers du tramway. J'ai l'impression qu'on n'a pas tenu compte du contexte global avant de prendre cette décision-là, qu'elle est à des fins électoralistes. On souhaite de meilleures décisions pour nos services publics parce qu'ils vont demeurer.
Monsieur Bouvrette, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci. Au plaisir de se reparler. Merci, au revoir. Guillaume Bouvrette, président du Syndicat des professionnels et professionnelles du Québec. Ça fait toujours réagir par texto, ce sujet du télétravail, Mathias. Moi, honnêtement... Tu le sais, au début, j'étais... Voyons donc, qui retourne 5 jours au travail, qui arrête de pleurnicher, qui arrête de m'énerver. Ça fait partie de la vie, se déplacer, alors qu'on doit enfin école et aller travailler. Ce que je me rends compte, par contre, c'est Colin. Le gouvernement, c'est un mauvais planificateur. On ramène le monde au travail, mais on a coupé les espaces de bureau. On n'est pas capable de ramener une équipe au complet par jour au travail. Fait qu'ils vont faire des rencontres Zoom quand même, puis des rencontres visio. Fait que je me dis... Si le gouvernement avait été un bon gestionnaire, ça ferait pas autant de remous. Je me trompe-tu?
Ben, c'est que j'ai l'impression qu'encore une fois, c'est un autre dossier qu'on avance, puis on recule, puis on essaie de réavancer quand on a reculé. Si tu veux ramener des personnes au travail, ben, il aurait fallu que tu y penses avant de te débarrasser d'espace où que ces personnes-là peuvent travailler, avant de décider de créer des équipes un peu qui sont dispersées un peu partout à travers la province. Mm-hmm. C'est que là, on s'est dit, on s'ajuste, on fait du télétravail, on va s'ajuster en conséquence, on va sauver de l'argent, on va faire travailler du monde un peu partout ensemble. Puis après ça, on dit non, finalement, on revient en vrai, mais ces gestes-là, ils ont déjà été posés. Fait qu'encore une fois, on a comme un problème de... On avance dans une direction, puis finalement, on fait marche arrière, on va dans l'autre direction. Mais à un moment donné, il faut se décider.
C'est ça, exactement. Donc, je comprends. Je comprends nettement les employés de se plaindre parce que on les ramène... dans des endroits et dans une manière de faire qui, pour moi, fait pas de sens avec la productivité. Plusieurs textos qui rentrent. Ah, ben oui, les jeunes au bureau, les plus vieux continuent à rester à la maison. Vieille mentalité syndicale. Salut, je m'appelle Alain. Je suis en télétravail au privé depuis 2019. Ma productivité est vraiment au top à la maison. Quand je vais au bureau, je suis constamment dérangé par les collègues qui jasent, qui me dérangent pour des questions de bruit, sans compter les réunions qui s'éternisent pour rien. En effet, dans les salles, ça s'éternise un peu plus qu'en visio. Pré-pandémie, on était tout le monde au bureau, puis on était dans le trafic. Pourquoi vous chialez? Si les fonctionnaires sont plus productifs à la maison, alors on peut couper des postes et augmenter la charge de travail à ceux qui restent. Ma blonde est fonctionnaire fédérale. En passant, les tâches à la maison sont pas mal faites les soirs. C'est Pascal qui nous écrit ceci. Donc, continuez à interagir. Ah,
c'est divisé, puis je comprends pourquoi c'est divisé. Oui. Mettons, moi, je me projette. Je me dis, est-ce que je pourrais travailler en télétravail? La réponse est non. Je serais malheureux. J'ai besoin de sortir. J'ai besoin de sortir de chez moi pour aller travailler.
Même principe pour moi.
Il n'y a aucune chance que je travaille. Mm-hmm. Mais pour certaines personnes, c'est complètement différent. Puis j'ai l'impression qu'il faut être capable, mettons, si certaines personnes sont dans la même situation que moi, qui se projettent puis qui se disent « crime que je ne serais pas productif », mais il faut être capable de se projeter aussi puis de dire « pour certaines personnes, ça marche présentement ».
Oui, vraiment, ça marche. D'ailleurs, il y a un auditeur qui écrit « je suis très d'accord avec Alain ». Courte pause à l'émission d'Angers sur Boulevard 101. Par la suite, on vous dit ce qu'il y a à surveiller en actualité ce week-end, par ce week-end très froid. De Vortex Polaire. Vous êtes sur Boulevard 101, l'émission On en jase. Émission On en jase qui tire déjà à sa fin à 13h53. C'est le retour de Gravel qui suit. Restez à l'écoute parce que Sandra Foodies va venir nous expliquer comment faire nos propres ailes de poulet épicées. Hey, à l'approche du Super Bowl, Mathias, c'est intéressant, ça.
C'est intéressant, certain, puis je suis jaloux. J'ai presque le goût de rester pour le retour.
Oui, c'est
maintenant.
Vrai, parce que quand ça me revient, elle vient des fois le matin, puis mon gars,
ben,
a ses recettes.
Je t'ai remplacé la semaine prochaine, la semaine passée. Jeff.
Oui, Sandra est venue.
Elle est venue, puis je t'ai remplacé juste pour ça.
Ouais, c'est ça, exactement. Elle fait de la bonne bouffe en grime, Sandra Foodies. On se le cachera pas. Donc, restez à l'antenne de Boulevard 101 pour le retour de Gravel. Mathias, circulation et des grosses conférences de presse qui ont été annoncées à l'Hôtel de Ville pour la semaine prochaine.
Yes, sir. Je le répète, les difficultés de la circulation commencent sur la rive sud aujourd'hui. C'est la 20 en direction est, surtout entre Chemin des Îles et Taniata, que c'est déjà difficile. 418-971-1021 pour nous rejoindre. Effectivement, des grosses conférences parce que du côté du maire Marchand, ça avait fait du bruit. Les premiers travaux dans le secteur de Montcalm qui avaient commencé. Puis là, les commerçants avaient comme pas trop d'informations sur qu'est-ce qui va arriver, les travaux vont durer combien de temps, ça va finir quoi, ça impacte quoi pour mon commerce. Fait qu'il a dit, on va avoir une présentation claire de tous les travaux pour Tramcité en 2026. Puis ça se passe la semaine prochaine.
Tant mieux.
Lundi. Donc, les journalistes sont invités à un huis clos. Il va par la suite avoir une conférence de presse à 15h, justement, pour présenter ces fameux travaux-là. Mm-hmm. Tramcité. Par la suite, mercredi, 14h30, conférence de presse pour cette fois-ci, présenter des mesures d'accompagnement pour les commerces qui vont être touchés par les travaux. Fait qu'on parlait d'aider les commerçants lors des entrevues qu'on a faites. Eh bien là, ce que j'en comprends, c'est qu'il va avoir des mesures d'accompagnement. Ça va être quoi? Est-ce que ça va être des enveloppes? Est-ce que ça va être de l'aide financière? On va savoir ça mercredi prochain.
Donc, très bonne nouvelle pour les commerçants, très bonne nouvelle pour les citoyens qui vont être impactés par ces travaux-là. Reste à voir quelles seront les mesures pour voir si elles seront efficaces.
Puis je termine avec la course à la chefferie de la CAQ parce que ça a été annoncé officiellement aujourd'hui. Ben, ça n'a pas été officiellement annoncé, mais on le sait que Christine Fréchette se lancera officiellement dans la course pour la chefferie de la Coalition Avenir Québec et potentiellement le nouveau poste de première ministre ce dimanche à 10h, normalement, qu'elle devrait faire l'annonce.
Exactement. Dans le comté de Trois-Rivières où elle est née, elle tente de s'enlever l'étiquette de cette candidate montréalaise. Reste à l'écoute, c'est le retour de Gravel qui s'en vient à l'instant même. Merci d'être sur les ondes de Boulevard 101. Merci, chers auditeurs, d'écouter l'émission On en jase. On se parle lundi prochain, midi. Bon week-end, Mathias.
Salut, bonne fin de semaine.
On était prêt à commander?
Oui, j'aimerais...